bienvenue à tous dans cette nouvelle émission du SAV de la F1 consacrée au Grand Prix d'Allemagne au Nürburgring. On dit que nul n'est prophète en son pays et Vettel en a fait l'amère expérience en finissant à une modeste, une médiocre 4e place. Oui, je sais, je me contente de peu cette semaine. Malgré tout, cette semaine, c'est Hamilton qui aura mis le feu à un Grand Prix pourtant très froid, non pas sur la piste, mais plutôt dans l'air. Hein, sortez les gilets. Pour m'accompagner, comme d'habitude, bonjour Dino.
Bonjour Cédi.
Ça va? Tu n'as pas eu trop froid hier? Parce qu'ils avaient froid. Hein,
Sérieusement, alors je vais pas forcément être super efficace cette semaine, j'ai eu un mal de crâne carabiné. Vous allez savoir pourquoi plus tard. Mal de crâne carabiné pendant le Grand Prix. Donc j'ai regardé un peu le Grand Prix dans un état léthargique et donc voilà, j'ai pas forcément trop suivi le Grand Prix.
Voilà. Parce qu'il faut savoir qu'il faisait 12 degrés au début du Grand Prix. 12 degrés dans l'air et 15 degrés sur la piste. Chez Lotus Renault, ils l'ont dit dans leur Twitter, ils avaient les tenues en fait des essais hivernaux, mais un 24 juillet quoi. Et donc Dino, comme d'habitude, nous ne sommes pas seuls.
Oui, et nous avons un invité spécial ce soir.
Ah oui.
Ouais, mais... nous avons un membre du SAV. Et quel membre?
Ah oui.
Oui, quel membre. Puisque quel membre. C'est en quelque sorte notre directeur commercial, notre responsable communication, notre grand gourou qui va nous rendre milliardaires et qu'on va payer
Et le spécialiste de la rillette.
Oui, voilà. Et faut le savoir. Puisque nous recevons Steph Kerr. Bonsoir Steph Kerr.
Ben, bonjour à toutes et à tous. Bah, très heureux d'être sur l'émission. Et ouais, si je peux vous rendre millionnaire, accro à la coke, au yacht et au champagne, bah, c'est la tâche sur
laquelle
je vais être à fond dedans, quoi.
Oh, dommage, non, j'ai déjà quasiment tout ça. Merde. Tu peux pas juste me rendre millionnaire? Merde, le reste, je l'ai.
Et mon cher Dino, c'était un invité spécial dans une émission spéciale aussi. Alors, non pas que les émissions sont pas toujours un peu spéciales, mais celle-ci, elle est spéciale.
Qu'a-t-elle de spécial, Chili?
Eh bien, cette semaine, il faut savoir que ce Grand Prix d'Allemagne était le 849e Grand Prix de l'histoire de la F1.
Et Dieu sait que ça nous a fait chier.
Oui, mais en même temps, on a failli passer pour des cons hein, si on n'avait pas
compté. Oui, c'est vrai.
Puisque, il faut savoir que le premier SAV a couvert le 800e Grand Prix. Et là, si vous savez faire du calcul et que vous savez aussi mettre une retenue, ce que ne savait pas faire Dino, eh bien, cette semaine, c'est le 50e Grand Prix couvert par le SAV de la F1. Il y a des saisons de 20 courses, hein, c'est sûr. Mais voilà, 50 Grands Prix.
Parce qu'en gros, on a couvert un 17ème de la F1.
Ah, ouais. La jolie, ouais. Ouais, ouais.
C'est la moitié de la carrière de Nico Rosberg. Ouais. Je crois qu'il va atteindre le 100ème.
Non, ouais. C'est magnifique, ouais. 50 Grands Prix, vous avez tenu la distance. Rien lâché. Non, c'est magnifique. Hein.
50 Grands Prix de Black Padrol, 50 Grands Prix de Pépin Technique. 50 oui. Grands Prix de silence, 50 Grands Prix de montagne.
Par conséquent, pas loin de 100 heures d'émission. je pense que les 100 heures d'émission, on n'y est pas encore, mais on n'y est pas loin. Et encore, on parle de 100 heures d'émission. On parle pas de 100 heures d'enregistrement, puisque là, ils sont explosés.
Et on compte en Grand Prix, parce que, évidemment, il y a en plus les spéciales. Donc en émission, en plus, ça fait encore plus.
Ouais.
Ouais, oui. Il y a les pré-saisons, les SAV d'or et autres.
Voilà, toutes les spéciales.
Ouais. Et on ne compte même pas le Dars autocritique. Pourquoi j'en parle? Pourquoi j'en parle, moi?
Pourquoi?
Puisque je l'ai réécouté, je me suis dit, merde, c'est pas terrible.
Ouais, mais il est plus trouvable. Par contre, il est plus trouvable parce que...
Oui, oh, c'est bizarre.
Ouais, c'est bizarre.
C'est pas plus mal.
C'est bizarre. Non, mais non.
Honnêtement, j'aimais les monologues des dinos.
Mais je crois que je dois les... j'ai les tous téléchargés à l'époque, juste au début où j'écoutais le SAV. Je suis sûr et certain que je dois en avoir au moins un ou deux qui doivent être sur un vieux disque dur. Je remettrai la main dessus.
D'ailleurs, je dois annoncer une bonne nouvelle. Nous serons bientôt, je l'espère, de retour sur iTunes.
Yes! Yes!
J'ai enfin pris le temps de refaire tout le flux au propre et tout, de le resuggérer. Ça a été envoyé il y a quelques jours, donc normalement ça devrait revenir. Voilà.
Alors sinon, si on revient à cette course, comme d'habitude, la première question, qu'est-ce que vous avez pensé de cette course? Enfin, surtout quand vous dormiez pas et que vous aviez pas mal à la tête.
Bah, moi j'ai eu la chance de l'enregistrer. C'est comme je travaille, comment dire, en journée, donc.
Oh, il y en a qui travaillent. Oh, j'arrive pas à le croire.
Ah, il y en a qui travaillent le week-end.
Oh, il y en a qui travaillent. Tour.
Ah, ta gueule.
Mais non, je dois avouer que ouais, autant c'était agréable de faire sauter les publicités, mais là ouais, c'est limite des parties de course parce que voilà, ça s'est suivi, qu'on entend le résumé, ça fait très beau. Ouais, c'était en une seconde, c'était en 3 secondes,
oui.
Mais au final, ils se suivaient, c'est
oui.
Tout.
C'est là où je suis assez d'accord, c'est qu'on a une belle course de haletante avec un vrai suspense pour la victoire et même globalement pour pas mal de positions. Mais finalement, est-ce qu'on a eu beaucoup d'action en piste? Pas vraiment.
Bah, on a eu en fait une belle, j'ai envie de dire une belle course, mais façon 2010, façon 2009, pas avec truc dans tous les sens.
On a eu une belle course de stratégie, tout simplement. Voilà. Alors même à la limite stratégie, c'est dur à dire parce qu'il n'y a pas eu vraiment de véritable impact de la stratégie sur la course parce que tout le monde se suit un petit peu. Que les différences de pneus, comment dire, là vraiment tout le monde a, avec les températures, tout le monde a voulu durer plus longtemps avec les pneus tendres et vraiment voulu évacuer les pneus durs, les médiums assez rapidement. Et donc du coup, bah, ils ont tous tiré le plus loin possible. Et voilà, il n'y avait pas forcément une grande originalité stratégique, il n'y a pas eu de véritable pari stratégique.
Non, et bah, les tentatives qui ont été faites, en plus, ça a été quasiment au détriment des pilotes. Il y a eu Petrov qui a morflé à cause de la stratégie de son team et tout. Même Weber, ils ont voulu tenter le diable, c'est pareil, ça n'a pas marché. Non, les paris Button, idem.
Oui,
non,
c'est un peu le seul moment, c'est-à-dire que c'est un peu le moment entre les trois du podium. C'est vraiment dans le dernier relais où Hamilton rentre sur les arrêts, où il y a vraiment une stratégie et où Hamilton construit sa victoire en rentrant vraiment au bon moment, là où les autres ont un peu tardé. Voilà. En dehors de ça, il n'y a pas eu vraiment une grande originalité stratégique. Les quatre écuries devant ont fait trois arrêts, les écuries derrière ont fait deux arrêts. Ils ont tiré les relais le plus possible. Voilà, c'est pas. C'est d'ailleurs un peu décevant de voir qu'en ce moment, à la limite, j'en verrais presque à espérer que Pirelli nous remette les softs et les super softs, parce que là, on a vraiment une impression que les mecs ne voulaient pas des médiums, quoi.
Dit Shinji, ouais, en Hongrie, ça serait sympa. Hein.
Chaleur, puis en Hongrie.
Théoriquement, ça sera le cas, je pense.
Non, mais au final. Oui, ah, excuse-moi.
Non, vas-y.
Non, j'y vais. Ouais, non, juste au final, même lorsqu'on lit, ouais, justement les résumés, une belle course. Lorsqu'on a vu la course, on a eu droit, ouais, à une petite série de manèges, quoi. Dépassement au stand et de la F1, de la F1 moderne.
En même temps, c'est pas avec la zone de DRS qu'ils ont mise.
Ah oui.
Alors là, ouais. J'ai même pas envie de dire de la F1 moderne. C'est-à-dire, faut aussi à un moment donné arrêter de mystifier la F1 il y a quelques années. Mmh. La F1, c'est toujours plus ou moins joué dans la stratégie, au stand, oui. Etc. Et c'est pour ça que moi, ça m'énerve souvent d'entendre des discours, notamment dans le cas ces dernières années, où il y a ce qu'on appelle moi le diktat du spectacle, c'est-à-dire il faut impérativement qu'il y ait du spectacle parce que dans les autres courses il y a du spectacle. Oui, mais la F1, ça n'a jamais été du grand spectacle. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a entre guillemets des exigences qui sont télévisuelles, qu'on a aujourd'hui des outils de comparaison, puisque on voit, même si certains se plaignent du traitement du sport auto, on voit du sport auto un peu partout. Et donc du coup, on voudrait que la F1 soit plus épicée, qu'il y ait plus de dépassements, etc. Mais la F1, c'est toujours plus ou moins joué dans les stands, dans la stratégie, etc. Ou avec la meilleure voiture. Les dépassements sont qu'une petite touche de piment.
La zone DRS, elle a servi à rien. Hein. Elle était tellement fantastique que...
Mais je suis d'accord avec toi qu'on est Dino, mais autant, comment dire, sur la première place en elle-même d'un Grand Prix, même dans les années 80 ou autres, le mec qui partait devant, voilà, c'est excessivement rare les dépassements qu'il y a eu. Mais au moins sur les 5 places à l'arrière, on avait quand même des dépassements, et c'est ça qui me manque. Je sais que la première place en F1, elle se joue pas. Le mec qui réalise, qui sort premier au premier virage, on va dire, à part justement des stratégies de stand, on va dire 80% de chance, il arrive devant, il arrive premier. Mais par contre, à l'époque, ouais, justement les 80 autres, on avait, c'était les 5 premières places qui pouvaient se jouer avec des dépassements, chose qu'on n'a même plus aujourd'hui.
Oui, mais faut s'y rappeler qu'à l'époque, il y avait d'abord des impondérables qui étaient supérieurs. Aujourd'hui, quand on le voit, on a été une fois où il y a 24 pilotes qui sont arrivés à l'arrivée, record battu. Il y a eu une fois où ils étaient 23 sur 24, je crois que c'est en Chine. On a un taux de stabilité qui est incroyable. Là, c'est vrai que sur le Grand Prix du Nürburgring, il y a quasiment pas eu d'impondérables. Il y a pas eu la pluie, l'usure des pneus. A été à peu près pour tout le monde la même. Le DRS n'a pas créé ce qu'il fallait. Donc voilà, on a eu une course excitante parce que avec beaucoup de suspense, beaucoup de des belles batailles comme on aime les voir. Mais c'est vrai qu'il a manqué ce petit côté champagne que peut y avoir.
En même temps, je reproche c'est pas la formule en elle-même. C'est comme tu dis, il y a plus de casse moteur ou autre. C'est simplement c'est la réglementation qui a voulu faire qu'on réduise le coût sur le développement moteur, ce qui est très bien pour les petites écuries. Mais en même temps, on a demandé aux d'en faire plus, les écuries affiabilisent au mieux la mécanique sur l'ensemble des Formule 1. C'est vrai qu'auparavant, on a eu des pilotes, Panis à Monaco qui a réussi à gagner. Il y a eu des impondérables qui sont venus qui ont permis justement ce coup de victoire, et ça restera en mémoire. Mais désormais, le fait des stratégies ou du résultat final, on va retenir le résultat, les impondérables de course n'existant pas, je trouve qu'on justement on a moins de mémoire sur certains résultats. Et on va garder sur des, comment dire, en mémoire, surtout, je dirais même bizarrement désormais et malheureusement, les courses noires. Celles où il y a la chose qui s'est passée, qui est pas terrible, les mauvaises actions de team, les demandes de consignes ou autres, c'est ça qui vont nous rester au-delà, la plupart du temps, au-delà des victoires. Alors qu'auparavant,
c'est je trouve que si on fait, ça serait intéressant d'ailleurs de faire un sondage, on va peut-être essayer ça sur le site Fan F1, de faire un sondage de savoir quelle est la course dont les gens se rappellent en 2010 par exemple. C'est quasiment certain que dans l'eau il y aura Hockenheim, c'est quasiment certain que dans l'eau il y aura Abu Dhabi. Après, ça va être un peu plus dur pour trouver par ou trois courses. Ça, voilà. C'est absolument vrai.
Voilà. Donc dimanche, nous étions le 24 juillet.
Oh non.
Mais, nous l'avons dit, cette semaine, ce n'est pas une émission comme une autre. Et là, je crois que je vais faire beaucoup d'heureux.
Non, non,
beaucoup,
non.
Beaucoup d'heureux.
Oh.
C'est exceptionnel, c'est pour vous. Cette semaine, nous allons avoir un chiffre inutile.
Ouais, yes.
Le service après-vente de la F1 vous présente le chiffre inutile de Shinji. Un chiffre inutile, mais qui peut vous éviter d'avoir l'air con en soirée.
Alors naturellement, il y avait un chiffre qui ressortait. Hein. Donc je me suis dit, je vais vous surprendre, je vais en prendre un autre. Et je me suis dit, en fait, vous êtes malin, vous vous attendez à ce que j'en prenne un autre parce que vous me connaissez. Donc, j'ai décidé, pour vous surprendre, de prendre le chiffre 50. Ça, c'est de la logique. Hein.
Ah ouais, ouais, là c'est...
Et donc, le chiffre de la semaine, c'est le chiffre 50 et il concerne forcément l'Allemagne. Et rappelons-le, il n'a absolument aucun rapport avec la F1.
A-t-il un rapport avec un événement qui va se passer en Allemagne ?
Oui, on peut dire ça.
C'est 50 ans quelque chose ?
C'est 50 ans de quelque chose.
61, le mur de Berlin ?
Je savais hein, que c'était un... Je voulais pas faire un chiffre trop compliqué.
Dino, il m'a soufflé sur ce que j'allais dire.
En fait, pour le chiffre 50, vous aviez deux choix. C'était soit le mur de Berlin ou la naissance de la ZDF.
Ah oui,
là, ouais, la ZDF, ça aurait été un peu difficile.
Voilà, donc je me suis dit, c'est peut-être un petit peu plus intéressant de parler du mur de Berlin.
Oui.
Bien que la ZDF soit une chaîne sans doute très intéressante. Rappelons donc le mur de Berlin en allemand, Die Berliner Mauer, mais appelé le plus souvent mur de la honte pour les Allemands de l'Ouest, ou mur de protection antifasciste en Allemagne de l'Est. Il a été érigé à partir, donc dans la nuit du 12 au 13 août 1961, donc on va pas dire célébrer, mais plutôt commémorer sans doute les 50 ans de la création du mur. Hein. Donc il sépare la ville de Berlin en deux, hein, donc la partie ouest qui était rattachée donc à la République fédérale d'Allemagne, ou Allemagne de l'Ouest, et Berlin-Est, donc rattachée à la RDA, la République démocratique allemande, à tendance communiste. Donc le mur a séparé la ville en deux pendant 28 ans, il mesurait en longueur 155 km, hein, et c'est peut-être le symbole le plus marquant en fait de l'histoire de la deuxième partie du 20e siècle, hein, parce que c'est le symbole même du rideau de fer et de l'opposition entre l'Ouest et l'Est. Alors, pour revenir un peu sur le contexte, il faut se rappeler que, certes, le mur est apparu en 1961, mais il y avait déjà une frontière, puisque les deux pays ont été créés en 1949, donc suite à la défaite allemande. Hein. Rappelez donc que l'Allemagne a été découpée en quatre zones d'occupation, que Berlin a été de même découpée en quatre zones d'occupation.
Alors qu'elle se trouvait dans une zone d'occupation.
Voilà. Donc c'est une espèce de pastille au beau milieu du communisme, hein, pour faire simple. Mais bien évidemment, une frontière urbaine, c'est quand même très compliqué à contrôler. Hein. Et donc, naturellement, ce qui s'est passé, c'est qu'entre 49 et 61, on estime entre 2,5 millions et 3,5 millions d'Allemands ont fui la RDA par Berlin. Pour vous donner une idée, la RDA, c'était 15-16 millions d'habitants. Hein. Mmh. C'est quand même un chiffre assez énorme. Donc, qui a privé le pays, la RDA, d'une main d'œuvre indispensable, hein, puisqu'on est quand même après-guerre et qu'il fallait reconstruire le pays, même de ce côté-là du mur. Hein. Il faut dire que, en plus, émigrer, c'était pas si compliqué que ça. Hein. Il suffisait de prendre le métro ou le chemin de fer, puisque les lignes, même s'il y avait une frontière, eh ben, elles continuaient à fonctionner. On estime qu'il y avait 500 000 Berlinois travailleurs frontaliers, donc soit travaillant du côté ouest, mais habitant à l'est et vice-versa.
Tu t'imagines, toi, travailleur frontalier dans ton patelin.
pendant les deux premières semaines d'août, comme il y avait beaucoup de rumeurs, il y a quand même 47 000 est-allemand qui passe en Allemagne de l'Ouest, hein, parce que sans doute qu'il sentait qu'il allait se passer quelque chose. Et donc, dans la nuit du 12 au 13 août, pour stopper cette hémorragie, hein, parce que on voit, hein, c'est quand même plusieurs millions de Berlinois et d'Allemands qui passaient par là, puisqu'à partir du moment où tu étais à Berlin-Ouest, tu pouvais rejoindre, on va dire, le reste de l'Allemagne, eh bien, 14 500 membres des forces armées bloquent les rues et les voies ferrées, des troupes soviétiques se traînent prêtes au combat et se massent au poste frontière des Alliés. Tous les moyens de transport entre les deux parties de la ville sont interrompus. En septembre 61, les métros et les S-Bahn, c'est un peu l'équivalent du RER, en fait, ils continuent à passer sous Berlin-Ouest, mais désormais ils ne s'arrêtent plus. C'est vraiment l'isolement total. Et jusqu'en à peu près, donc le mur a commencé à être construit entre mi-août, jusqu'en septembre 61, la frontière restait encore franchissable. Alors, étonnamment, on pourrait se dire que ça aurait dû faire un scandale. Eh ben, au niveau international, les réactions étaient assez ambiguës. Hein. Par exemple, Kennedy, qui était président des États-Unis, il a déclaré que c'était une solution peu élégante, mais mille fois préférable à la guerre. Parce que c'est vrai que pendant quelques années, les Soviétiques, ils étaient pas trop chauds par avoir cette espèce de morceau de capitalisme au beau milieu quand même de la RDA communiste. Et pendant quelques années, ils ont demandé par exemple à ce que Berlin devienne une ville libre. Voilà, finalement une fixation d'un statu quo.
Ah, et puis ça arrive aussi à une époque de regain de tension quand même entre...
Ah oui, dans les années 60.
Les années 60.
Ah, c'est pour ça, il dit.
C'est la période de la baie des Couchons, c'est la période de la crise des mines de Cuba, c'est la période où il commence à y avoir des tensions de plus en plus naissantes entre les deux blocs. Et donc finalement, c'est une solution qui semble pacifique, en tout cas qui permet de pacifier un peu l'Europe.
Donc les ressortissants de Berlin-Ouest ne pouvaient déjà plus entrer librement en RDA depuis une dizaine d'années, depuis 52. Et l'encerclement est rendu encore plus efficace avec la diminution des points de passage. Il y avait 81 points de passage et suite à la construction du mur, 69 d'entre eux vont être fermés. Plusieurs places, comme la fameuse Potsdamer Place par exemple, vont être littéralement coupées en deux. Le centre historique va devenir un grand vide sur la carte, hein, puisque finalement le mur va plus ou moins passer par là. Les fameux travailleurs qui basculaient, ils vont se retrouver au chômage. Il y a 63 000 Berlinois de l'Est qui perdent leur emploi et 10 000 de l'Ouest. Et les deux parties de la ville vont devenir paradoxalement des vitrines chacune de leur système, l'une face à l'autre. À noter que malgré l'isolement, les gens de Berlin-Ouest pouvaient rejoindre quand même l'Allemagne de l'Ouest, mais c'était extrêmement drastique. C'est-à-dire que le transit aérien, c'était donc au-dessus du territoire, par l'intermédiaire de couloirs aériens très précis qui partaient d'aéroports particuliers, Hambourg, Francfort, Munich, et qui rejoignaient tous le même aéroport. Tu pouvais aussi partir par train, sachant que le train ne s'arrêtait pas en RDA. Je crois même que les trains avaient des rideaux, il fallait même les fermer, parce qu'on sait jamais, tu sais, par la fenêtre du train, tu peux faire passer des messages, hein, des choses comme ça. Non, c'était vitres fermées, enfin plutôt rideaux fermés. Et tu pouvais aussi sortir par la route. Là encore, c'était par des autoroutes de transit, où les conducteurs occidentaux pouvaient s'arrêter sur des aires de repos spécifiques qui leur proposaient des produits occidentaux et où ils pouvaient payer en Deutschmark. Et donc, de facto, c'était des endroits qui étaient formellement interdits pour les Allemands de l'Est. Et bien évidemment, il était interdit pour les historiens de la RDA d'avoir des contacts avec les Occidentaux qui transitaient. Hein, donc, il était déconseillé de laisser traîner dans les lieux publics n'importe quoi, en fait, qu'un Est-Allemand aurait pu récupérer, ça lui serait retombé dessus.
Ouais.
Alors, dans son état final, hein, c'est 155 km, c'est quoi le mur? En fait, c'est beaucoup plus qu'un mur. C'est bien sûr, alors c'est un mur de béton d'arrière-plan haut de 2 à 3 mètres. C'est des alarmes de détection de contact au sol. Une barrière de contact en tôle mécanique plus haute qu'un homme, tendue de fils de fer barbelés et de fils de détection par contact. Jusqu'à l'ouverture de la frontière, il y avait sur certaines parties des pistes pour chiens, hein, des fossés de défense contre les véhicules, des défenses anti-chars en rails soudés en croix, qui d'ailleurs coûtèrent des très chers à enlever lorsque le mur est tombé. Il y avait un chemin de ronde éclairé de nuit pour l'accès au poste de garde. Il y avait 302 miradors équipés de projecteurs de recherche. Il y avait des pistes de contrôle ou pistes de la mort qui étaient RC. Et en fait, si tu veux, ça faisait du sable. Et en fait, les soldats ne devaient pas le piétiner. Parce que l'idée, c'était d'avoir les traces de pas des gens qui essaieraient de passer au sol. Hein. Il y avait des barrières de tôle supplémentaires dépassant la hauteur d'un homme à travers lesquelles on ne pouvait voir qu'en oblique. Et le mur ou la paroi frontière faisait strictement 3,60 m de haut. Et devant ça, il y avait encore quelques mètres de territoire sous l'autorité de la RDA. Donc en réalité, c'est plus qu'un mur, c'est tout un système. La largeur totale des installations, alors, mais non, ça dépendait aussi de l'endroit, hein, puisque c'est en pleine ville. La largeur, c'était entre 30 et 500 mètres.
Ouais.
Les troupes hein, qui étaient là, c'est environ 11 500 soldats, 500 civils. Il y avait 567 véhicules blindés, 48 mortiers, 48 canons anti-chars, 114 lance-flammes. Il y avait, on a compté 992 chiens. Et bien évidemment, si quelqu'un essayait de passer, c'était il tirait à vue. Hein.
C'est une prison, quoi.
Ah oui, c'est une gigantesque prison. Alors, il y en a qui ont essayé de passer. Hein, et c'est là, d'ailleurs, qu'on a des chiffres extrêmement variés, puisque au niveau des victimes... alors, il y a des collectifs qui parlent de 1135 personnes. Il y a les bureaux des autorités administratives, eux, qui parlent plutôt de 270, ah, 150.
C'est comme toujours, ça.
Voilà, c'est quand même extrêmement disparate. Et alors, ce qui est dingue aussi, c'est l'histoire de la chute du mur, qui, je vais pas dire qu'elle est, il est tombé presque par hasard, mais presque. Donc, on est en 89. La situation politique a bien changé. Les soviétiques annoncent leur retrait d'Afghanistan sans victoire. Au printemps 89, la Hongrie ouvre son rideau de fer avec l'Autriche. Ce qui fait que pendant l'été, il y a plein d'Allemands de l'Est qui sont allés, entre guillemets, aller en vacances en Hongrie, qui en réalité, bien évidemment, aller en Hongrie, puis passer en Autriche pour repasser en Allemagne de l'Ouest. Et donc c'est à la fin de l'été, début de l'automne, il commence à y avoir des manifestations, sachant qu'en plus l'Allemagne de l'Est est en 89, donc il fêtait les 40 ans de la RDA. Hein. Donc bien évidemment, le gouvernement est-allemand espérait un peu le soutien des soviétiques. Hein. On sait que des années plus tôt, les chars russes n'ont pas hésité à aller, alors c'est à Prague notamment, mater les tentatives de rébellion.
Oui.
Sauf que l'URSS n'étant plus la même, vraiment, Gorbatchev dit non, on va pas amener les chars russes à Berlin, à Leipzig, pour arrêter ça. Donc, que faire pour calmer les gens? Et donc, quelques jours plus tard, décide, on va dire, de lâcher du lest. Et donc, il y a une conférence de presse qui est tenue alors par un monsieur qui s'appelle Günther Schabowski, qui est inconnu sans doute de tous les Français, mais qui doit être un nom quand même qui doit parler à tous les Allemands, qui est membre du bureau politique donc du SED, qui est le Parti communiste est-allemand, qui est retransmise à la télé, parce que ce genre de truc dans ce genre de pays, c'est retransmis à la télé, à l'heure de grande écoute. Et donc, à 18h57, vers la fin de la conférence, ce monsieur Schabowski, il lit, parce que maintenant, on annonce les décisions que le parti a fait.
Ouais.
Et il lit d'une manière un peu détachée une décision du Conseil des ministres sur une nouvelle réglementation des voyages. Donc c'est un projet de décision du Conseil des ministres qui normalement alors devait pas être appliqué sur le coup. C'est-à-dire qu'ils avaient prévu que ça soit appliqué le lendemain, que les troupes soient mises au courant à partir de 4h du matin. Enfin voilà, qu'il y a un contrôle. Et donc le texte dit « Les voyages privés vers l'étranger peuvent être autorisés sans présentation de justificatif, motif du voyage ou lien de famille. Les autorisations seront délivrées sans retard. Une circulaire en ce sens va bientôt être diffusée. Ah ouais. Les départements de la police populaire responsables des visas et de l'enregistrement du domicile sont mandatés pour accorder sans délai des autorisations permanentes de voyage. »
Ah oui,
sans que les conditions actuellement en vigueur n'aient été remplies. Les voyages, y compris à durée permanente, peuvent se faire à tout poste frontière avec la RFA. Alors déjà, si on lit le texte, c'est déjà se tirer une balle dans le pied.
Bah, c'est déjà aller vers l'ouverture des frontières, quoi.
Ah oui, c'est autoriser les gens à passer en RFA. Et là, il y a un journaliste qui pose la question, quand ceci entre-t-il en vigueur? Et monsieur Schabowski, il feuillette ses notes, mais il n'y a pas de date, ces notes. Donc il dit, autant que je sache, immédiatement. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a des milliers de Berlinois
qui ont envie de partir en vacances.
Qui ont envie de partir en vacances et qui vont se ruer sur les postes frontières du mur. Bien évidemment, les militaires, ils ont complètement été débordés parce que, ça devait pas du tout se passer comme ça. Et que même s'ils avaient des armes, quand tu vois des milliers d'Allemands qui se jettent sur toi, voilà, tu laisses passer. Et puis à partir du moment où la frontière était ouverte, le mur, tout simplement, n'avait plus de raison d'exister.
Il est plus tombé en valeur symbolique, véritablement.
Ah oui.
Les gens ont plus voulu détruire le symbole d'une forme d'oppression et
ah bah oui.
Vraiment, en quelque sorte, obtenir leur liberté Alors que finalement, dans le texte, elle est quasiment acquise.
Ah bah oui.
Droit à des autorisations permanentes de quitter le territoire, sans justifier de la raison, etc. Donc, grosso modo, ils étaient en train d'ouvrir leurs frontières, mais ils ont voulu le prendre.
Moi, j'avais 13 ans à l'époque. J'ai toujours vécu toute mon enfance avec le mur, et c'était un symbole fort. Et le
t'as
jour
jamais
où
fait
des si, mais un peu plus tard, mais pour des bonnes raisons. À partir dès que les hormones ont commencé à agir, mais non, j'avais toujours vécu.
Ah, bah, c'est des bonnes raisons alors.
Et j'avais toujours vécu avec le mur, et je sais que autant le soir, je l'avais pas vu, parce que ça, je crois, que ça commençait assez tard dans la nuit.
Oui, et la conférence était à 19h, donc on se doute qu'en réalité, le mur, il a pu commencer à tomber à 21h, 22h et quelques.
Voilà, et au lendemain matin, sur la 5, à l'époque, il y avait sur la 5, quoi, toute la journée, ça a été le passage, et pour moi, ça a été une vraie coupure d'un. C'était peut-être bête à dire, mais je pense que pour les gens qui l'ont vécu, qui doivent être de ma génération, c'était une fin, vraiment la fin d'une époque, le mur qui tombait.
Même nous, Dino et moi, qui étions extrêmement jeunes, on peut pas dire qu'on s'est souvenu du mur, on avait 5 ans. Hein, donc on peut pas dire qu'on s'est souvenu de l'événement. La chute du mur, ça reste quelque chose d'extrêmement important, même si on l'a pas vécu directement.
C'est une époque, enfin c'est aussi
plus que ceux qui ne l'ont découvert que dans un livre d'histoire.
Ouais, exactement. Ouais.
Pour faire un comparatif, c'est un peu comme le 11 septembre. Mm. Moi, je vois avec mes élèves, c'est très dur de leur faire comprendre qu'il y a eu un monde avant le 11 septembre, oui. De leur expliquer ce qu'était le monde avant le 11 septembre.
Alors, il y a un marquage du tracé du mur à Berlin aujourd'hui, quand même, pour rappeler quand même où il était. Après, cette division marque encore quand même la géographie de la ville, même si il y a eu beaucoup de travaux de fait en 20 ans, il est évident que l'évolution différente entre les deux parties de la ville se ressent.
C'est vraiment visible.
La partie ouest est beaucoup plus boisée. Pourquoi ? Parce que comme il est enfermé, il pouvait pas se permettre d'étendre la ville, parce que forcément il y avait le mur au bout d'un moment. Plus que la partie est, où là par contre beaucoup plus de grands ensembles. Typique de l'Allemagne de l'Est, des choses comme ça.
Ce qui est intéressant, c'est que Berlin, c'est l'Allemagne, mais à l'échelle locale. Même géographiquement, sociologiquement parlant, on voit bien l'ancienne Allemagne de l'Est et l'ancienne Allemagne de l'Ouest. Ça se distingue assez facilement.
Juste pour terminer, alors, le 9 novembre aurait pu être une manique fête nationale pour l'Allemagne réunifiée et tout. Et en fait, pourquoi ils ne l'ont pas choisi ? Est-ce que vous avez une idée ?
Ah, purée, je l'ai su.
C'est aussi un truc triste, le 9 novembre, c'est pas le...
C'est, oui.
Le hashtag ou un truc dans le genre.
Il y a deux choses. C'est le putsch de Munich d'Hitler.
Mmh. Oui.
Et la nuit de cristal.
Ok, d'accord.
Voilà. Donc, voilà. C'est pour ça que la fête nationale allemande est en fait la date de la réunification, qui est début octobre. Voilà, c'était tout. C'est pour ça aussi que j'ai fait un chiffre finalement qui était trouvable facilement parce que je me doutais qu'il y aurait énormément de choses à dire sur le mur. À noter vraiment pour terminer, ensuite on passera à la suite.
Oui, rassurons les auditeurs.
Si vous allez à Berlin, il reste quelques morceaux du mur, mais pas tant que ça. Hein, parce que bien évidemment, la première chose qu'ils ont pensé, c'est tout faire tomber. Et il y a le grand truc pour touristes, c'est le petit morceau de mur que tu peux acheter. Alors, c'est de l'arnaque, hein.
Non, c'est vrai.
Ce qui peut être sympa, c'est qu'il y a des musées de l'Est avec des représentations, soit des appartements tels qu'ils étaient typés Allemagne de l'Est, des supermarchés Allemagne de l'Est où on n'a que un type de marque et tout, c'est amusant à voir. C'est amusant à notre époque ou autre, avec un regard décalé, parce que malheureusement, pour les gens qui ont vécu ça, ça devait être quand même nettement autre chose. Mais c'est aussi assez intéressant à voir même l'endoctrinement et la bulle dans laquelle ils vivaient, qui est assez intéressant.
Il y a même un truc qu'on peut vraiment vous inviter à aller voir, c'est le mémorial de Caen, qui propose notamment une section où vous avez comparé...
Il y a toute partie en fait sur l'après-guerre, parce que ça ne parle pas que de la Seconde Guerre mondiale, mais tout ce qu'il y a après, en effet, avec une salle, on peut la décrire, elle est absolument géniale, oui. Puisque tous les éléments, en fait, sont... il y en a qui sont présentoires, il y en a qui sont littéralement collés au plafond, il y a une traban collée au plafond.
Ah ouais.
Et ce qui est bien, c'est que la salle est en deux côtés. C'est-à-dire que d'un côté le côté ouest, d'un côté le côté est.
Voilà, donc vous mettez au milieu et vous regardez de deux côtés et vous avez des repères différents. Vous voyez aussi les sociétés, quoi.
Voilà, les jouets, les livres, voilà, toutes les différences qu'il peut y avoir. Et eux, ils ont un vrai pan de mur. Un vrai de vrai.
Ah là, sympa. Et si vous prenez votre
ticket. Ils ont aussi une bombe atomique.
Ah ouais.
Si, ça fait des frissons de voir, même si elle n'est pas vraie.
N'importe où vous dire, c'est vrai qu'il y a une réplique où il y a une réplique de la bombe atomique qui est tombée sur Hiroshima. Et Shinji a voulu la toucher. Et quand même, au moment donné où il l'a touchée, il a eu un petit mouvement de recul.
Non, il y a eu un bruit. Oui. Genre de truc du tout. Merde.
Je l'ai activé.
Allez, on va quitter la guerre froide. On va revenir en 2011.
Oui.
Pour un grand prix froid. Transition. On va passer à l'actu.
Oui. Et au podium de l'actu.
Parce que t'as rien foutu sur les trucs spéciaux, mais j'espère au moins que sur les trucs normaux, t'as bossé.
Oui, sur les trucs normaux, j'ai bossé. et d'ailleurs, j'ai bossé, mais bon, je me suis dit, voilà, émission spéciale, on va pas non plus en faire trop.
Oui, le podium ne fera que 14 places cette semaine.
Il ne fera que 3 places et demi.
Wouah! Ah! Puisque il y en aurait que 3, ça aurait été énorme.
Il y en a que 3, mais il y a quand même un article que je vais citer. Voilà.
Ah.
Et c'est pas moi qui l'écris. Et donc, nous allons commencer avec le quatrième article le plus lu. C'est un article qui s'intitulait « Rose Brown voit le jeune Schumacher en Rosberg ». Un article où Rose Brown révélait que Michael Schumacher et Rosberg avaient des similitudes.
Et en même temps, il cible pas.
Ouais.
Il cible pas les points de similitude. Il fait, ouais, il y en a quelques-uns. Ouais, c'est clair. Ils portent la même combinaison. Ils montent dans la même voiture. Voilà. Il y a des mecs qui changent leurs pneus quand ils rentrent au stand. Mais, non, il a pas précisé exactement les points de
c'est surtout, c'est que, entre guillemets, les points de comparaison sont quand même des points qui, quand un pilote veut être champion, sont nécessaires, quoi. La préparation physique, la détermination à gagner.
Je dirais même quand un pilote veut être pilote.
Voilà, enfin, je pense quand même que Vettel là, je pense qu'Hamilton là, je pense qu'Alonso là.
Mais je pense quand même que Shandok là, tu vois.
Oui, voilà, enfin, c'est. Moi, Shandok, je suis pas sûr. Maintenant, c'est aussi très valorisant pour Rosberg, puisque faut se rappeler que Rose Brown a quand même accompagné quasiment l'intégralité de la carrière de Michael Schumacher, qu'il l'a vu jeune, qu'il l'a vu grandir, qu'il l'a vu gagner des titres, et donc être comparé en une certaine manière à Schumacher, dire qu'il a les mêmes qualités, que tu vois en lui ce qu'était Schumacher en 95-96, voilà, ça fait quand même ça a quand même du poids et ça crédibilise vachement Rosberg.
Oui. Bah, il valorise un petit peu son ego, parce que même Rosberg, qui effectue, ouais, la plupart du temps des meilleurs résultats que Schumacher, doit bien voir que sur les sites ou sur les différents titres, vont d'abord privilégier et valoriser les efforts faits par Schumacher au lieu de ses résultats à lui. Donc, c'est un peu normal que Rosberg, à un moment, essaie de rééquilibrer, de refaire rebriller un petit peu l'ego de Rosberg.
Il y a ça aussi, c'est-à-dire que, une course de Rosberg, même si elle est très bonne, entre guillemets, ça ne reste que Rosberg. Alors que, naturellement, pas parce qu'on est curieux pour Schumacher, parce que c'est quand même le septième champion du monde, qu'on veut voir comment il se démerde, que c'est pas non plus un pilote qui laisse insensible en bien ou en mal par son pilotage et par son caractère, c'est forcément un pilote qu'on va plus regarder. Les gens, on voit dans les statiques du site, par exemple, dès qu'on parle de Schumacher, il y a vraiment un plus sur l'article, quoi.
Le pauvre en termes de popularité, hein, je parle vraiment dans un cercle allemand, bah voilà, il y a Schumi d'un côté, de l'autre, il y a Vettel,
Bah, et en voilà. Plus, les, et, voilà, et en plus, les articles qui vont cibler Schumacher vont autant attirer les passionnés de Schumacher que directement oui. Ceux qui ne l'aiment pas, qui vont se donner à cœur joie sur le fait de le brimer. Donc, ça attire les deux populations. Rosberg, malheureusement, ouais, est assez effacé. Tout en étant et c'est malheureux pour lui parce que tout le monde, tous les passionnés de F1 s'accordent à dire que c'est l'un des plus agréables pilotes qui est sur le plateau, mais sa notoriété ne monte pas pour autant, quoi. Donc, c'est clair que, là, Rose Brown, à mon avis, a envie de le garder, parce qu'au niveau résultat, c'est que bénéfique pour son team.
C'est plus l'avenir pour Schumacher.
Et surtout que Schumacher, la saison prochaine, devrait être encore là. Il avait un 3x1, je crois. Donc,
apparemment,
Voilà, donc il restera la saison prochaine. Et il est obligé de flatter un petit peu Rosberg, parce qu'il veut garder ce talent, parce que autant il est effacé, mais qui tient un gros potentiel de la voiture. Donc, il ménage ses intérêts. Hein.
Mais il y a aussi ce contrat, c'est que, entre guillemets, Rosberg, c'est un pilote normal. C'est un pilote normal, qui connaît une carrière normale, qui connaît une carrière brillante, mais normale. Là où en face, on a, encore une fois, c'est même plus question d'un homme ou d'un pilote, c'est qu'on a...
C'est Dieu sur Terre.
Non, mais c'est même pas par rapport au palmarès, je pense que c'est tout simplement, c'est pour beaucoup de gens, c'est quand même un homme de 42 ans, qui refait de la Formule 1, ça remonte à très loin, la dernière fois qu'on a vu ça, donc il y a une forme de curiosité, comme tu dis tout à l'heure, Steph Core, que même les gens qui ne l'aiment pas vont regarder. Oui, je pense que globalement, tous les fans de Formule 1, d'une manière ou d'une autre, s'intéressent à ce que fait Schumacher, parce que c'est pas seulement une carrière de F1 qui joue, c'est en quelque sorte, il y a quelque chose d'original dans Schumacher, qu'il n'y a pas dans Rosberg, dans la mesure où, voilà, Rosberg, il connaît une carrière normale, d'un débutant normal, très talentueux, qui mérite de gagner, mais qui fascine un peu moins, parce que, des mecs comme ça, il y en a 24 sur le plateau, enfin 23, moi, Schumi.
Pour parler d'un différent sport, mais quand on avait le retour de Jordan, ce retour-là a effacé quelques joueurs ou a fait baisser un peu la notoriété. Je crois qu'à l'époque, Kobe Bryant qui jouait, et sa notoriété a mis un petit peu plus de temps à monter, parce que justement, une telle légende qui revenait, même si ses résultats étaient négatifs, mettait tous les projecteurs sur lui-même, et ça a effacé tout le talent que pouvaient donner les autres à côté, quoi.
Ou même un exemple comme Gianni Longo, quoi. Gianni Longo fascine aussi par sa longévité, et ça se paye sur la jeune génération.
Les autres, ouais.
Non seulement parce que Gianni Longo est tout le temps championne, etc. Elles n'ont pas le droit au laurier, et donc n'ont pas le droit à un palmarès qui pourrait leur permettre de grossir leur carrière. Et en plus, elles fascinent un peu moins, c'est-à-dire que l'éclosion d'un jeune talent et le retour ou la persévérance d'une gloire d'un sport, ça a quelque chose de magique. Enfin, ça a quelque chose d'au-delà même du sport. C'est-à-dire, c'est Rosberg, c'est le sport. Schumacher, c'est au-delà même du sport. C'est dans le domaine de l'humain.
Ainsi, donc, quelle était la troisième actu?
Alors, c'est la troisième actu, c'est juste pour mentionner l'article, puisque c'est une des chroniques. C'est la chronique, je crois, d'Axel, la chronique hors piste, dont on avait parlé dans la dernière émission, qui s'intitulait Des écuries aux noms étranges. Voilà. Qui revenait notamment suite au fait que Ferrari avait dû retirer le nom de son sponsor, Marlboro et compagnie. Et puis, notamment, le fait qu'on aille, des écuries, de plus en plus d'écuries qui portent des noms de marques, etc. Donc il était revenu un peu là-dessus, un article très intéressant qu'on vous réinvite absolument à lire. Voilà, on va passer au deuxième, et là Shiji, tu vas être content.
Ah,
puisque le deuxième article le plus lu, et il a été bien lu. Il a été bien lu. Ce sont les fans autrichiens qui aimeraient un duo Vettel-Raikkonen.
Oui, moi aussi je veux.
Moi aussi je veux.
Là, j'aurais pas.
Ouais, mais ce serait fun.
Ah, c'est clair.
C'est quand même deux pilotes qui se ressemblent plutôt pas mal. C'est-à-dire que ils ont une approche de la course qui est à peu près similaire. Moi, je dirais que Vettel, c'est Kimi Raikkonen, mais en version
plus appliquée.
Voilà, en plus appliquée. Parce que sinon, dans la démarche, dans le style, dans la manière de se comporter dans le paddock, dans la manière de se comporter avec les médias, dans le côté, moi, je prends course après course et compagnie, même si on sait qu'on est pétri de talent, les deux se valent, quoi. Alors après, il y a toujours les questions de pilotage. Bon, ça, je laisse les experts discuter du pilotage. Moi, c'est pas vraiment ce qui me passionne le plus dans la Formule 1. Mais j'ai vraiment l'impression que Vettel, comme tu le dis, c'est un Kimi Raikkonen, pétri de talent, mais avec de l'application et du travail en plus, ce qui manquait à Kimi.
Tu vois, et en même temps, ce week-end, en voyant la course, le week-end de Vettel, j'ai eu un moment où j'ai pensé à Raikkonen sur le fait que j'ai eu l'impression qu'à un moment, il l'a laissé un peu aller. Même s'il y a eu la bisbille ou la bagarre à pousser, justement, ça l'a mis dans le jeu avec Massa, mais j'ai trouvé tout de même, début de course, une fois qu'il avait calé sa place.
Pas investi.
Il n'était pas investi dedans. Donc à ce moment-là, ça m'a fait penser quand même un petit peu à Raikkonen qui faisait, ouais, course gâchée, on laisse filer un peu la course. Alors qu'il y a un pur talent qui est là, sur ce côté-là. Après, comme tu dis, sur le caractère ou la rencontre avec les médias, je trouve quand même Vettel un petit peu plus ouvert.
Ouais, mais, quand même. Hein.
C'est vrai que c'est certain. Oui. En même temps, c'est pas dur.
Il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire.
Les deux répondent de façon très fun, mais Vettel en plus, il répond.
Mais voilà, c'est-à-dire que ça fait partie de cette génération de pilotes Red Bull, hein. Enfin voilà, c'est pas non plus pour rien si Raikkonen a été associé à Red Bull. C'est des pilotes jeunes, modernes, qui ont une vraie fraîcheur. Mais c'est vrai que dans tous les domaines, Vettel c'est Kimi plus dans l'investissement auprès de l'équipe, c'est Kimi plus dans l'investissement auprès des médias. Voilà, c'est un Kimi docile.
Ouais. Est-ce que je pense comme dans l'extrait de Top Gear que tu avais montré, qui avait été diffusé sur le site, Raikkonen à la place de Vettel, je pense pas que ça aurait été tout à fait la même ambiance, quoi. Même sur la petite attaque, même lorsqu'il y a la petite attaque sur le fait qu'on s'ennuie un peu cette année, je sais pas si Raikkonen aurait aussi bien réagi que
Vettel. Avec Raikkonen, on s'ennuie jamais.
Non, mais c'est dommage que Raikkonen, c'est un regret que j'ai aussi, qu'il soit parti si tôt de la F1, quoi. Il aurait pu encore passer quelques bonnes années. Et c'est vrai bon,
après,
que là,
c'est les fans, hein. Faut pas, même si, alors, je sais pas pourquoi, à chaque fois, ça ressort. L'an dernier, c'était Renault, cette année, c'est Red Bull. Tant qu'en fait, il sera dans un âge, on va dire, potable pour la F1, je crois que tous les ans, il y aura une rumeur.
Mais c'est parce que, moi, je pense que pour les fans de F1, avec Raikkonen, il y a un goût d'inachevé.
Il y a un goût d'inachevé, oui.
On aurait cru, et on sait qu'il aurait peut-être pu y avoir mieux. Et ce goût d'inachevé fait que, à chaque fois, on s'intéresse en disant, pourquoi pas le retour, pourquoi pas le retour. On l'a eu durant un moment avec un petit temps avec Montoya sur le fait qu'on a pensé que mince, il allait y avoir une progression qui allait se faire encore plus rapidement. Il est parti de la F1, il y a eu quelques rappels, mais bon. Mais là, Raikkonen, c'était quand même nettement plus fort sur ce fait de gâchis à dire il part trop tôt.
Mais ça, je pense surtout que c'est à l'origine d'un malentendu entre les fans et Kimi. Je pense que Kimi, pour lui, sa carrière en Formule 1, elle est réussie.
Il a été champion du monde
et qu'il avait envie de passer à autre chose. Ah maintenant c'est vrai que dans l'envie des fans, moi le premier, c'est vrai que
non puis ce qu'il n'a pas aimé dans la F1, ce qui l'a aussi fait partir, c'est tout ce qu'il y a autour. Oui, c'est voilà. Ça aussi.
C'est d'avoir un mec, je veux dire, c'est peut-être bête à dire, mais d'avoir un mec normal. Est-ce que je dis d'accord, il va à l'excès, peut-être qu'il a fait des fêtes ou il allait à l'excès, mais au fait, c'était une personne normale. Qui dans la situation d'un pilote de Formule 1, gagnant autant d'argent, n'aurait pas non plus l'envie d'aller faire la fête ou d'aller délire avec ses copains, du moment qu'on en ait les moyens. Voilà, chose que désormais, on essaie de trop cadrer les pilotes de F1, de s'en faire passer pour des bisounours, à part quelques petits comportements sur la piste tel Hamilton. Ouais. Mais à l'extérieur, on n'a quasiment rien. On en a eu un qui est arrivé, moi je pensais que Petrov allait monter un petit peu la sauce, parce qu'il y a quand même des à côté qui étaient là, mais voilà, les médias et tout, on essaie de cacher, et c'est dommage.
Petrov, c'est un Kimi moins, c'est-à-dire qu'il est doué, ouais. Il est fermé sur lui comme Kimi, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui est très ouvert et qui est très rigolant, mais il a pas ce côté fun de Kimi. Kimi,
il est plus corporate quand même.
Il a un côté grunge, quoi.
Kimi, ouais. il avait un côté grunge.
Voilà,
exactement.
Il a ce côté. Alors que même Petrov, il a quand même un côté corporate. C'est pas le genre qui va aller naturellement vers les médias, mais c'est un peu lisse quand même, hein. Faut pas non plus.
Ours mal léché, Petrov.
Ouais, parce que par contre, les histoires à l'extérieur, semblerait-il, il aurait une vie quand même bien agitée, bien haute, mais c'est désormais tellement fermé par les écuries, tellement fermé par la communication des écuries, tellement bloqué que ça ressort pas. Alors que c'est des choses qu'on a envie d'entendre voir ou d'entendre parler.
C'est vrai qu'aussi, à la différence de Kimi, lui, il est quand même, il a entre guillemets un rôle de vecteur d'image aussi, c'est-à-dire qu'il représente la Russie. Il a énormément de sponsors derrière lui, énormément de voilà, donc entre guillemets il a été éduqué comme un produit entre guillemets marketing, comme un produit.
Kimi passe après Mika Hakkinen et Keke Rosberg, donc ça va quoi, il peut faire le con, c'est pas comme si on avait jamais vu ça. Non, puis en plus Kimi, histoire de pas en rajouter une couche, alors dit hop la F1, j'exclus rien. Mais alors, ce qui est drôle, c'est que quand il dit ça, tout le monde, oh oui, peut-être que Kimi veut refaire de la F1. Non, il dit, il exclut rien. C'est-à-dire, vous lui proposez de la F1, vous lui proposez du rally ride, vous lui proposez de la NASCAR.
Je pense même que lui-même n'a peut-être pas fermé la page de la F1, mais qu'il n'a pas de plan, si jamais un jour il y a un projet qui arrive et qui lui plaît et voilà, où il a envie de s'investir et où il se plaira,
ce que je veux dire, c'est que la F1, c'est pas plus, pas moins qu'une autre discipline. Voilà.
Exactement, ouais.
Pour le moment, aujourd'hui, honnêtement, il n'y a rien dans la Formule 1 aujourd'hui qui peut laisser penser que Kimi Raikkonen reviendrait, que Vettel reste quand même malgré tout un produit Red Bull, très marketé, qui est le porte-drapeau d'une marque, et je vois quand même mal Kimi Raikkonen s'intégrer dans le moule Red Bull, au sens où il aura quand même des obligations de représenter une marque, etc. Et voilà, c'est...
On voit que c'est compliqué en plus pour les pilotes qui viennent pas de la filière, même pour Weber, bon, il est copilote, mais on voit que dès qu'il faut renégocier le contrat, quand même, c'est...
Et donc, la première actu, l'actu la plus lue, et là c'est une petite actu spéciale Steph Core. C'est bien, c'est que quasiment chacun en a pour... Enfin, moi non. Moi, chez Marron, il n'y a rien pour faire.
Oh, mais toi,
et donc, c'est une actu qui était... Voilà, c'était des rumeurs, voilà, qui depuis ont été démenties. C'était l'article s'intitulant « Lotus Renault Grand Prix pourrait perdre son moteur en 2012 ». On n'a pas eu l'occasion, ça va, de revenir sur le partenariat avec Williams de Renault en 2012. Il y a eu des rumeurs affirmant que, en 2012, Lotus Renault Grand Prix, pour des raisons financières, serait obligé de passer au Cosworth. Des rumeurs
qu'on a parlé en plus de pertes d'argent pour l'an dernier, tout ça.
Bah, il semblerait quand même que l'écurie soit mauvaise payée, mauvais payeur envers Renault, qui ait des retards et tout. Donc ça, c'est une chose qui passe pas, quoi. Oui. Et c'est même ça qui entraînerait quelques retards sur des développements en cours ou autres, sur des rentrées financières pour des développements. C'est semblerait-il les bruits qui couraient. L'an dernier, déjà, il y avait eu des soucis qui avaient été causés sur les retards de paiement de l'écurie et envers le motoriste. Bah, et
même
je suis sûr, les derniers étaient à payer.
Ouais, on avait parlé, vous souvenez, qu'une partie qu'ils voulaient en avance de l'argent qu'ils auraient dû avoir en fin d'année parce que pareil, ils étaient un peu short au niveau finance. Je crois que ça avait été il y a un an d'ailleurs, à peu près.
Bah, et Renault Sport semble être devenu quasiment une entité indépendante de Renault qui doit limite encore, façon de parler, mais qui doit réussir à tourner à flot sans simplement que les entrées, ses propres entrées d'argent et les injections de Renault restent désormais mineures. Mmh. Et faut que l'impact publicitaire et des commanditaires viennent quasiment à combler tout le budget nécessaire et même les phases de développement. Et c'est vrai que si une écurie s'engage avec Renault et qu'elle a sur deux ou trois paiements, ça vient être retardé. Renault, surtout Carlos, il fera pas dans le détail, hein, il coupera directement à la racine.
On pensait juste là qu'il restait quand même les liens privilégiés entre Renault et Lotus Grand Prix et son ancienne écurie, alors qu'en fait il semblerait que tout simplement Lotus Renault Grand Prix ne soit qu'un client comme les Red Bull, c'est peut-être même d'ailleurs Red Bull qui est le premier
maintenant,
partenaire
maintenant,
comme le sera Williams. Et donc là, inévitablement, en fan que tu es, Sefcor, je te posais
Williams,
la question.
Un Williams Renault, oui, surtout que même Frank Williams, l'un des team directeurs sur lequel j'ai le plus de respect, même si je trouve que sa méthode managériale avec les pilotes est un petit peu bête parfois. Surtout, on le voit cette année, mais encore, c'est dû à des raisons financières. Mais ça me fait quelque peu rêver, quoi, de revoir Williams Renault, et justement, même pour Renault, de privilégier le développement.
En plus, à un moment où, c'est que de la symbolique, mais c'est vrai que cette année, ils ont repris les couleurs des années 90. Et Cosworth a dit qu'il n'y avait pas de souci au niveau de son équilibre financier. Ils ont quand même perdu deux équipes en deux ans. Puis bon, Williams, c'était quand même leur écurie de pointe.
Alors apparemment, Cosworth a eu des garanties pour 2014 qu'ils auraient deux écuries. J'aimerais savoir comment ils ont reçu des garanties sur 2014. Mais surtout, moi, ce qui m'a fait rire dans l'annonce de Williams Renault, c'est le discours où ils ont dit, faut quand même se situer la mise en scène. C'est-à-dire qu'on est quand même les patrons de Williams, les patrons de Renault, qui sont, je crois, au musée Williams. En tout cas, il y avait plein de Williams, toutes les Williams Renault qui ont été produites. Ils ont été invités pour l'occasion, Jacques Villeneuve, Nigel Mansell. Je sais plus qui l'autre, je crois qu'il y avait, je pense qu'il y avait pas Alain Prost, plus les pilotes actuels. Donc, on est quand même dans l'incarnation du mythe Williams Renault. Et derrière, on a un discours, oui, mais nous ne voulons pas vivre sur le passé. Et là, dans les gars, vous vous foutez de notre gueule.
Mais ça serait une très bonne chose que Williams, c'est quand même, on va dire, ouais, c'est une vraie équipe historique de la F1. Oui. C'est une vraie équipe historique et ça, elle mériterait absolument, parce que là, moi, je crains et je craignais le déclin jusqu'à la fermeture et l'arrêt d'équipe d'ici un an ou deux ans. Et là, ça va donner un coup de boost.
Alors c'est sûr, c'est l'association avec un grand motoriste, c'est ce que cherche Williams depuis des années, un motoriste qu'il connaît. Maintenant, est-ce que ça va vraiment changer l'inclinaison de la pente? Est-ce que ça va permettre à Williams de revenir?
Comme j'ai dit, il faut que l'aéro suive.
Exactement, ouais, c'est ce que j'ai dit, c'est que après, par contre, ça peut donner quand même un boost de motivation au sein des équipes. On repart quand même avec quand on parle d'équipé Cosworth, t'inquiète que même les ingénieurs ou les aérodynamiciens qui travaillent, ils savent qu'ils bossent pour Cosworth, ils savent qu'ils n'ont pas un moteur pour la gagne. Que là, t'as quand même ce qui va arriver au sein de l'équipe, c'est le moteur champion du monde. Donc ça donne quand même un boost et ça aide quand même à la motivation et à aider à développer
chez Team Lotus, hein, même si c'est pas les mêmes résultats. Le fait qu'ils aient quand même un moteur Renault et pas un moteur Cosworth, il y a quand même une différence. Outre le fait qu'elle est beaucoup plus travaillée, mais voilà, ça rentre en compte. Après, il y a l'aéro, hein, forcément, il n'y a pas que le moteur qui fera tout. Et puis aussi, il y a Barrichello, il y a Maldonado, faudrait aussi arriver à capter, alors peut-être que justement le fait qu'il y ait quand même ce moteur Renault, faut arriver à trouver quelqu'un avec qui s'élever. C'est pas avec Barrichello, Maldonado, on sait jamais, parce que
tu penses à pas un petit Grosjean, toi, par hasard.
Pourquoi pas? Parce que... Mais non, mais ça peut être un Grosjean, ça peut être un Kobayashi, enfin voilà.
Il faut rappeler quand même que Grosjean, on le disait à l'époque, le profil de Grosjean plaisait à Frank Williams.
Voilà, ça peut être intéressant.
Et moi, je le verrais plus, comment dire, s'intégrer au sein d'une équipe comme Williams, où justement, il va y avoir, t'as Frank Williams, t'as quand même une équipe qui a beaucoup d'expérience dans le milieu, que de se retrouver dans l'équipe actuelle, Lotus GP Renault. Je suis pas sûr que justement, vu qu'il y a des dissensions, des problèmes qu'ont eu lieu l'année dernière, cette année, au sein de l'écurie sur différents paiements, que l'ambiance soit aussi bonne que l'on puisse essayer de nous le faire.
Ce qui est certain, c'est que c'est un coup énorme contre Lotus Grand Prix. Parce que quand même, Lotus Grand Prix, c'était le retour de Lotus, etc. Ils ont beaucoup joué sur la com, etc. Avec Renault qui en faisait son objet, son porte-étendard,
d'une certaine manière. Oui, c'est quand même l'héritière, hein. La voiture, c'est R31, c'est pas...
Oui,
voilà.
C'est R31, l'écurie s'appelle Renault Grand Prix, beaucoup l'appellent encore Renault, le nom Renault est partout sur la voiture. Maintenant, c'est vrai que symboliquement, déjà tout le monde, ça faisait plaisir, Lotus Renault Grand Prix. symboliquement, Williams Renault, ouais. L'année prochaine, ça, voilà, en termes de communication, ça va niquer absolument Lotus, quoi.
Même... On va passer aux citations. Avez-vous des citations?
Moi, ce qui m'embête, c'est que ma citation, elle peut ouvrir un débat, donc ça m'embête un peu.
On peut la faire, mais ça porte pas vraiment polémique. Elle est vraiment simple. C'est simplement il y a la déclaration de Boullier, d'Éric Boullier sur Dimanche F1 qui disait que Hellfeld est une déception,
il l'a dit à la télé, donc tu imagines la déception que c'est.
Exactement. D'un mot, c'est clairement une déception. Il n'a pas apporté le leadership que l'on voulait. Et aujourd'hui, on s'appuie davantage sur Vitaly pour la performance et sur Nick pour le développement.
Vu que le développement en ce moment a du mal à suivre.
Voilà.
Et par contre, moi, ce qui me paraît vraiment étonnant de la part d'Éric Boullier, c'est clairement le fait d'avoir pris Hellfeld. Hellfeld n'a jamais été un leader. Ah, il y avait d'autres choix qui étaient à faire. Sûre.
Oui, voilà, ils ont pris
et encore une valeur sûre.
Ouais, mais par rapport à ce qu'il y avait sur le marché, oui, Hellfeld, c'était le meilleur choix. Faut se le dire. Et d'ailleurs, après ce qu'il a dit, Éric Boullier, on commence déjà à dire qu'il va pas finir la saison. Parce que quand Boullier parle de lui comme ça.
C'est que là où Hungaroring, Bruno Senna qui va faire. qui va faire la séance du vendredi matin. Alors je sais pas si ça sera la place de Petrov ou d'Hellfeld, mais bon, ça sera peut-être.
Non, je crois que c'est la place d'Hellfeld.
Voilà, non, ça sera la place d'Hellfeld. C'est quand même pas bon signe, quoi. Ça sent quand même le pilote qu'on veut commencer à préparer.
Mais ce que je ne dis pas, c'est que justement, j'aurais cru que, au lieu d'avoir un leadership ou d'essayer d'avoir un leader, j'aurais cru que justement Renault était assez malin pour essayer de créer une émulation et d'avoir un autre pilote. Même j'étais pas un grand fan, mais il y avait Hülkenberg qui était disponible.
Je pense que ce qui a joué pour dans la décision de Renault, c'est qu'ils avaient ils avaient entre guillemets une très bonne voiture sur le papier. Ils sont arrivés avec des ambitions. Il faut quand même se rappeler qu'en début de saison, on leur assurait quasiment de se battre pour le titre. Avec Kubica, donc ils se prennent la disparition de Kubica d'un coup. Sur le coup, qu'ils le veuillent ou non, ils se disent on va trouver un pilote qui sera capable de pas forcément d'égaler Kubica, mais au moins de jouer la victoire. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont dit quand ils ont engagé Nick Hellfeld. Et là, ils se rendent compte qu'aujourd'hui la victoire, non seulement la voiture ne la permet pas, mais qu'en plus il y en a un qui doit viser la victoire en ce moment, c'est pas Hellfeld, mais c'est Petrov. Donc du coup, ils sont en train de passer dans la stratégie. On développe pour l'avenir. Surtout qu'ils sont toujours pas sûrs, malgré les rumeurs qu'il peut y avoir d'un retour, d'un test, etc.
On sait pas, tant qu'il sera pas dans une voiture, on sait pas.
Pour moi, on n'a aucune confirmation, on n'a rien disant que Kubica est en voie de revenir. Et donc, c'est à un moment donné aussi où ils disent, de toute façon, là maintenant, la saison elle est morte, honnêtement, ils vont finir cinquième, ils sont clairement maintenant derrière Mercedes, ils ont suffisamment de marge, autant donner de l'expérience à Senna, et puis si Senna ne suit pas, en fin de saison, pour la saison asiatique, mettre Grosjean, pour ensuite le caser dans une autre équipe ou le garder l'année prochaine si Kubica revient pas.
C'était joué sur la longévité, c'est vrai qu'il y avait cette vision-là, mais je sais pas, pour moi, Hellfeld n'a jamais été un leader au sein d'un team, n'a jamais été quelqu'un qui a eu les capacités. Il a un talent de pilote, mais il n'a pas été un talent de haut niveau.
Et, c'était le meilleur choix. Voilà.
Mais de là, le tailler comme il le fait, pour la fin de saison, je trouve quand même cela vraiment sévère, quoi. C'est que là, doit y avoir vraiment une bonne embrouille au sein.
Peut-être que la chimie s'est jamais faite, hein, donc. C'est peut-être aussi ça. Hein.
Non, puis toutes les rumeurs qui circulent en ce moment sur un retour de Kubica, on sont aussi le témoin, quoi. On ne parlait pas autant de Kubica si tout se passait bien. C'est clair et évident que Kubica manque chez Lotus Renault. Finalement, on se rend compte, ils commencent vraiment à se rendre compte de ce qu'ils perdent avec le problème de Kubica.
C'est vrai qu'ils ont mis un sparadrap sur une jambe de bois en prenant Hellfeld. Ils s'en rendent compte, mais autant on peut incriminer Hellfeld qu'en même temps, ils savent pas. Je trouve qu'il y a un manque de, ils savent pas se remettre en cause. La décision a été prise par eux. Ils connaissaient les risques ou les mesures. Les résultats sont pas là à leur niveau d'attente qu'ils en avaient, mais ils ont une part de responsabilité. Parce que même il vient critiquer durant l'émission une déception pour Hellfeld, mais en même temps ils annoncent aussi que tous les différents développements qu'ils ont faits n'ont apporté rien à la voiture et ont même fait régresser la voiture. Donc on peut critiquer un pilote, mais lorsqu'on ramène aussi des pièces de développement sur une voiture
et apparemment la prochaine voiture aura des échappements classiques, hein.
Oui, oui.
De toute façon, ils sont obligés, hein, pour l'année prochaine.
Dino, est-ce que tu avais une citation? Ou sinon, je peux donner la mienne.
Non, moi, je vais donner la mienne. Voilà, c'est une citation de Lewis Hamilton.
Ah,
j'aime beaucoup les déclarations en ce moment de Lewis.
Elle est
et concernant Lewis. Sachez-le, avec quasiment tous les articles qui parlent de Lewis sur le site radiofan.com, c'est moi qui l'ai fait. Et donc, c'est une phrase où il dit « Un gars différent le gagne chaque année », en parlant du titre. Alors, ça a moins de valeur pour moi parce que d'autres personnes n'ont gagné, mais en avoir deux ou trois, c'est une chouette sensation, ça voudrait dire quelque chose. Il parlait du fait, entre guillemets, de n'avoir qu'un seul titre. Voilà, on sent un Lewis un peu frustré. Oui.
Comme on lui a fait remarquer, dans les articles, il y a quand même qu'une trentaine de pilotes qui ont été champions du monde sur les 900 qui ont participé à la F1. Donc voilà, même un titre, quand même pas rien.
Comprends aussi, c'est-à-dire que au-delà même des envies de grandeur, c'est vrai qu'il a raison, c'est qu'aujourd'hui, dans la F1 d'aujourd'hui, le palmarès, au début de la F1, gagner un Grand Prix, c'était énorme. C'était le sommet de ta carrière, ne serait-ce que gagner un Grand Prix. Aujourd'hui, Eki Kovalainen a gagné un Grand Prix. Quand on compare à tous ceux qui ont gagné des Grands Prix par rapport à la masse de ceux qui ont gagné des Grands Prix, c'est énorme. Aujourd'hui, un pilote comme Lewis Hamilton, qui peut potentiellement être considéré comme l'un des futurs plus grands pilotes de la F1 de son histoire, ne peut pas se contenter d'un. Pour lui, en tout cas, c'est comme un constat d'échec. Maintenant, c'est vrai que ce que j'ai mis dans l'article, ce que j'ai essayé de sous-entendre dans l'article que j'ai écrit, c'est en même temps, est-ce qu'il ne vaut pas mieux justement être champion du monde au terme d'une saison qui t'oppose à plusieurs champions du monde, plutôt que d'être champion du monde au terme d'une saison que t'as dominée? Si on prend l'exemple de Vettel, je pense que les gens vont sans doute être plus marqués par le titre de 2010 que par le titre de 2011. Pourquoi? Parce que le titre 2010, il a été le chercher, parce que ça a été difficile, parce qu'il a été face à deux champions du monde, même pas trois, j'ai des bêtises, qu'il a eu à faire à son coéquipier, voilà, ça a été difficile. Alors pour moi, le titre 2011, c'est facile.
C'est vrai qu'en plus, il gagne son titre en 2008, ça a été un peu les montagneuses, enfin, à part l'an dernier où il a joué le titre jusqu'à la fin. Après, je vais pas dire que la chute est rude, parce que c'est quand même McLaren, mais c'est normal, c'est quand même depuis 2008 qu'il a pas le titre, ça fait, voilà, cette année, ça a mis du temps, même s'ils sont bien rattrapés, l'an dernier, ça a mis du temps, en 2009, c'était pas terrible du tout au début, voilà, c'est compliqué.
Mais maintenant, on est quand même dans une génération Kleenex. Tu vois, le Formule 1, on va la Formule 1, les champions du monde, on aura tendance à plus les oublier. Ça va être les airs comme Schumacher, Prost, Senna, qui restent encore marqués en ce moment. La période Mansell, mais elle reste vraiment pour les fans de Formule 1, mais pour le simple passionné de sport.
C'est un titre parmi nos beaux mieux d'autres.
Voilà. Et c'est vrai que, voilà, pour et comme tu me le marques dans l'article, l'ambition d'Hamilton, c'est de pas rester au bas des tablettes, c'est d'avoir une marque et il a toujours été poussé depuis ses débuts à conduire une grande histoire en Formule 1, et il veut rester un personnage historique de la F1, et il se rend parfaitement compte que là il s'effacera, quoi.
Voilà, mais c'est vrai que c'est très difficile aujourd'hui pour un pilote de se dire je vais marquer ma génération, je vais marquer l'histoire, quand t'as un mec avant qui a gagné 7 titres et qui a laissé finalement aux gens l'impression que gagner en Formule 1 c'était facile. Et point où aujourd'hui quand on voit Vettel, tout de suite on a peur d'une ère et d'une domination Vettel. C'est bon, le mec il a gagné juste 6 grands prix en 9 courses. Il n'en est pas comme Schumacher a gagné sur 2 saisons de suite 15 grands prix dans la saison. On peut pas parler de domination pour le moment, faut attendre.
Et pourtant, comment dire, Schumacher était aussi dans le même esprit d'Hamilton de réussir à marquer, à battre les différents records. C'était quand même une ambition personnelle qu'il avait aussi. Lorsqu'il a vu la domination qu'il avait, les records de Senna,
je suis pas sûr.
Dans les déclarations, dans les déclarations directes aux médias, elle disait pas, mais pour ceux qui l'ont
compris,
disait bien que le record de pole position de Senna, elle le voulait.
Oui, mais quand ça se rapproche, là, honnêtement, pour le moment, Lewis, il est qu'au tout début de sa carrière, il a encore minimum 10 ans devant lui, potentiellement, alors on va dire, face à la concurrence actuelle, 2 voire 3 titres en plus, voilà, on va être optimiste, on va le voir quadruple champion du monde, honnêtement, voilà, on voit en comparaison en face, on voit Vettel qui visiblement pour le moment n'en a rien à faire de savoir s'il sera 4, 5, 6 fois.
Moi c'est très loin pour lui.
Moi ça me fait penser, tu sais, ça me fait penser, il y a pas longtemps, je suis sorti aller faire des courses avec ma petite nièce et je l'ai portée sur mes épaules et elle se met à me dire moi quand je serai grande, je veux 2 garçons, 2 filles. Et t'as envie de lui dire mais attends, t'as 5 ans. Vite d'abord et après tu penseras à te caser quoi. Tu te retourneras sur ce que t'as envie de faire. Mais j'ai envie de dire à Lewis, attends, c'est bon, t'es au début de ta carrière, te mets pas tout de suite la pression sur la trace que tu vas laisser. Tu feras Schumacher, bien évidemment, il s'est interrogé sur la trace qu'il allait laisser. Tous les pilotes se posent la question sur la trace qu'ils vont laisser dans leur
course. Il en laissera une. Dans 30 ans, il sera commissaire il sera pilote commissaire.
Oui.
Comme Robert. <Il pourrait. rire>
Mais c'est comme si nous, voilà, si nous on se demandait si on allait être, par exemple, le podcast le plus lu de la Terre. Mais honnêtement, c'est
de l'en. Ouais, mais quelque part, moi, je résume ça, comment dire, c'est un trait de caractère. C'est d'accord, ça peut. Moi, ça me dérange pas trop chez Hamilton parce que je me dis, c'est juste un trait de caractère. Il est ambitieux. Comme il va y avoir tous les personnages politiques ou dans les stars au cinéma ou autre, c'est des personnes qui ont de l'ambition démesurée, d'accord, ridicule parfois à certains points.
Je suis tout à fait d'accord, mais l'inconvénient c'est que c'est bien d'être ambitieux, mais c'est que là c'est de l'ambition avec le risque quand même malgré tout, c'est que s'il échoue.
Ah bah oui.
Moralement, c'est très dur. Et pour moi, c'est la faiblesse de Lewis, c'est qu'il pense tellement à entre guillemets dominer la F1, parce que c'est ce qu'il veut. Et je le comprends. C'est bien d'être ambitieux, mais j'ai pas l'impression qu'il soit préparé à ne pas la dominer. J'ai vraiment l'impression que si ça ne fonctionne pas et s'il ne va pas là où il s'est fixé, il s'effondre. Et c'est un peu ce qu'on a vu à Monaco et au Canada, quoi. C'est si ça fonctionne pas comme il le veut, ça se casse la gueule.
Ouais. Allez, on va passer une petite dernière citation.
Au moins, Dino nous a fait la démonstration que, en fin de compte, il adore Hamilton et qu'il a peur que, il vienne
qu'il l'efface.
Se fragiliser. Donc, tu y tiens quand même à ton petit Hamilton. Tu viens de nous le prouver à l'instant.
Mais je ne déteste pas Hamilton. Voilà. Je n'aime pas le personnage. Je n'adhère pas au personnage. Mais Hamilton est un pilote fantastique. Faut être honnête. C'est un pilote fantastique. Voilà. Maintenant, je reconnais que c'est un pilote qui me fascine vraiment, qui est super intéressant à suivre.
Allez. Moi, je l'aime. Dernière citation, alors qui n'est pas une citation de Robert Christensen. Ça c'est quand même un truc. Oh là là. Robert Christensen, multiple. Ah oui, j'ai entendu comme toi. Multiple vainqueur au Mans. Ouais, c'est peut-être son frère, je sais pas. Non, je vais faire une citation de 40 Chandoc. Oui, qui, outre deviner la météo, sort parfois des citations.
Non, c'est Kartik Eyan qui devine la météo.
Ah oui, c'est vrai. Il a dit, si vous voulez critiquer quelqu'un, ayez au moins des faits, puisqu'il n'a jamais mis Narain ou moi-même à l'épreuve dans une de ses voitures. Il n'en a pas. Et il parlait de son autre compatriote, Vijay Mallya, qui donc a une équipe qui s'appelle Force India, mais le concept de F1 tout indien, eh ben, ça a ses limites. Parce que c'est vrai qu'il a un peu balancé sur le niveau des pilotes indiens. Donc visiblement, c'est pas de mal à veille qu'on va voir un pilote indien chez Force India.
Il a raison.
Ouais. C'est vrai, en même temps, il a pas tort.
L'inconvénient, c'est que pour moi, est-ce que lui fait quelque chose pour le niveau des pilotes indiens? Est-ce qu'il va chercher des jeunes pilotes, les aider, les promouvoir? Là, c'est une question. C'est facile de balancer sur Chandok et Kartik Eyan, qui pour eux, les jeux sont faits. Maintenant, lui, en tant que patron d'une écurie indienne, en tant que porte-drapeau de l'Inde en Formule 1, va faire quelque chose pour les pilotes indiens. Il faudra voir ça dans quelques années.
Parce qu'en plus, quand il était arrivé, enfin, il laissait supposer que oui, à terme, il voulait un pilote indien. Et souvent, quand on avait parlé de transfert et tout ça, justement, on disait, ah oui, mais attends, est-ce qu'il voudra pas mettre? Et en fait, il l'a jamais fait. Et visiblement, il en est très content de pas foutre un pilote indien dans sa voiture. Comme quoi, le côté national qui ressort, hein, ces dernières années, en F1, comme quoi, après, il y a la réalité de la course. J'ai envie de dire.
Et il y a les réalités des infrastructures indiennes. Comme tu disais, ouais, aider des pilotes indiens ou autres, même que le pays compte 1 milliard d'habitants, les infrastructures ne sont pas.
C'est très spécial, là, non, parce que c'est un pays
entre les castes.
Ouais, c'est un pays d'un milliard d'habitants. Mais comparé à l'autre géant démographique qu'est la Chine, tu prends aux Jeux Olympiques, voilà, la Chine c'est 100 médailles, l'Inde c'est peut-être 5-6 médailles. Ils ont un rapport au sport qui est spécial, enfin sauf pour le cricket. Voilà. Alors ça, si le cricket était aux Jeux Olympiques, y a pas de souci.
Exactement, mais le problème de l'Inde restera. Là je dévie un peu, mais ça, si ça reste sur le, comment dire, le système de caste, tu n'auras aucune progression, donc tu ne pourras pas avoir de développement de pilotes, vraiment ouais, des classes aisées. Donc il y aura toujours ce système-là, le système de caste où tu es affilié à certaines, à un certain type de profession où tu ne pourras pas en bouger. Voilà, les possibilités pour un jeune indien de devenir pilote, c'est vraiment extrêmement rare, quoi.
Et, non, parce que si tu veux, même par l'effet de masse, le fait qu'ils soient très nombreux, tu sais, c'est le fameux truc, il y a 1% d'ingénieurs informaticiens aux États-Unis et en Inde. Ouais, sauf que 1% en Inde, ça fait 15 fois plus.
Exactement.
Voilà.
Mais en même temps, enfin, c'est bien de donner sa chance aux jeunes pilotes d'un pays, mais encore faut-il que les jeunes pilotes atteignent un niveau. C'est-à-dire qu'il faut aussi arrêter de considérer que la Formule 1 est un niveau de formation des pilotes. La Formule 1, c'est l'excellence des pilotes. Moi, j'en ai marre de voir des pilotes comme Karun Chandhok qui disent en disant « on m'a pas donné ma chance ». Mais ta chance, on te demande pas de te la donner. C'est avant que tu dois progresser, c'est avant que tu dois apprendre. C'est pas Vijay Mallya de développer le sport. Et c'est pas les Jeux Olympiques, c'est la Formule 1. Être de nationalité ou avoir une valise ne suffit pas.
Bah, malheureusement, comme tu dis, je te rejoins sur la nationalité ne suffit pas, mais malheureusement, c'est la valise qui suffit désormais. Je veux dire, dans la plupart des cas,
c'est
malheureusement, c'est ce qu'on se rend compte. Le meilleur pilote au monde, il est peut-être boulanger dans le fin fond du Cantal ou fin fond d'Angleterre, parce que le mec n'a pas réussi à avoir... T'as le talent qui rentre en compte, d'accord, mais t'as quand même désormais, malheureusement, beaucoup d'argent. Même tu regardes sur les petites catégories, tu vas simplement voir... Tu viens au monde, tu vas voir sur la piste de carte le dimanche des courses des petits gosses de 11-12 ans, bah tu te rends compte que malheureusement, d'accord, t'en as qui vont se classer avec le petit matériel, mais
je suis d'accord. Voilà. Mais cite-moi le nom d'un pilote à valise qui a percé en Formule 1.
Non, mais par contre, je peux donner le nom de pilotes qui ont eu quand même des facilités, qui étaient assez aisées, qui ont eu le potentiel de courir et avoir du bon matériel. T'as Senna.
On est d'accord que le sport auto reste un sport de riches, mais là, on parle vraiment de ceux qui apportent un budget à l'équipe, de ceux qui apportent des gros sponsors. Maldonado, par exemple. Cite-moi le nom d'un pilote qui est connu pour être un pilote valise, qui a percé en Formule 1.
Ah non, malheureusement.
Il n'y en a aucun. Donc c'est voilà. Ça, c'est-à-dire que bien évidemment que la nationalité et l'argent permettent de rentrer en Formule 1. Mais est-ce qu'ils permettent de s'y installer ou d'y défendre sa chance? Non, ça permet juste d'y rentrer. Tu achètes un baquet.
Messieurs, on va avancer.
Oui, oui.
On va passer à la course et au qualif.
Okay.
Et je suis triste cette semaine.
Pourquoi?
Mais parce que regarde qui est la place du con cette semaine.
Oh, c'est mérité quand même.
Oui, c'est mérité, mais quand même. C'est Kamui. Kamui qui fit que 10e de la qualif, qui est parti tard, tu me rappelles bien en plus. Ils l'ont fait sortir tard. Ça va être la première fois, cette année
non.
En tout cas.
Non, il l'a déjà été.
Cette année. Hein.
Non, il l'a déjà été.
Il l'a déjà été cette année.
Oh, oui, je suis quasiment certain.
Je viens de croire. Ça m'en triste quand même.
ils ont voulu jouer aux essais pour le privilégier un train de pneus ou parce que malheureusement j'ai pas.
Là pour le coup, comme c'est une voiture qui est quand même relativement économe avec ses pneus, c'est un peu le même problème finalement qu'a pu rencontrer Ferrari et qui a profité peut-être à McLaren. Les températures basses étant, la McLaren qui bouffe bien ses pneus s'est retrouvée finalement dans de bonnes conditions avec ses pneus. Là où Ferrari et Sauber qui eux sont très économes avec les pneus se sont retrouvés en tout cas dans la vitesse pure, se sont retrouvés à moins bien fonctionner finalement parce que leurs pneus qui ont tendance à être plus économes et plus lents à monter en température, qui s'usent moins vite, trouvent pas leur fenêtre d'exploitation idéale par les températures aussi fraîches. Donc je pense qu'il y a aussi ça qui a joué. Je pense que dans le comportement des monoplaces, ça a eu son influence.
En Q2, on notera Sébastien Buemi qui a fini 16 avec du carburant non conforme. C'est pas cher payé pour du carburant non conforme quand même. Hein.
Non mais en fait ils ont expliqué qu'ils avaient eu un problème de pression d'essence, enfin de carburant lors des essais libres 1, qui leur ont causé également problème lors des essais libres 2, la raison pour laquelle il a pas participé à la fin de la séance des essais libres 2, qu'ils ont changé tout le système de carburant et que apparemment l'ancien, le nouveau système avait un produit chimique contaminant qui a fait dépasser les limites. Parce qu'il faut savoir qu'en fait les écuries fournissent un échantillon de carburant avant le Grand Prix et cet échantillon doit y avoir une marge de 0,1% sur les composants qui doit être respecté après chaque séance. Voilà, donc.
Sur 10% du volume, ouais, j'étais
lié. Ouais, voilà, j'ai essayé de lire le point de règlement, j'ai pas trouvé comment le traduire. Mais bon, grosso modo, voilà, s'il s'écarte de plus de 1% de l'écart.
C'est pas un d'octane, juste comme ça.
Mais c'est sur le pic, c'est sur 0,1% sur 10% du volume total sur le lors du contrôle sur le pic d'indice d'octane, sur le grab, c'est le pic de le total d'indice. C'est hyper prise de tête parce que même quand tu le lis, tu dis mais
s'il mettait simplement surtout ce qui est très drôle derrière.
Il mettrait simplement un petit schéma avec l'explication, le volume, machin, voilà.
Surtout ce qui est très drôle derrière, c'est qu'ils te disent alors bon ça dans ce cas-là l'équipe est exclue. Par contre, si l'équipe rajoute un additif et qu'on a été mis au courant en cours de Grand Prix,
exactement.
Là, le carburant est validé, quoi.
À noter aussi un peu, Thierry Pédé Williams, 13 et 14, Maldonado devant Barrichello. Maldonado qui fait une petite canif, hein, parce que c'est vrai que ces dernières courses, il tapait dans la Q3 quand même. J'ai envie de dire, au moins, la chute est moins brutale cette semaine. C'est un peu ça, Maldonado, quand même. Hein. C'est le nouveau Trulli, mais voilà. Et en 11e place, la déception, hein, c'est pas nous qui le disons, c'est Eric Boullier, Nick Heidfeld. Bon, on va y revenir. Son week-end continue, parce que le week-end ne commence pas quand même lors de la qualif, mais c'était pas top. Et donc en Q3, on a notre Schumi qui est 10e. On a quand même notre Petrov qui est 9e, comme quoi Heidfeld, hein, c'est ça en plus, c'est que Heidfeld, pourquoi il est décevant? Parce que aussi Petrov, il est là, j'ai envie de dire. Il est pas forcément brillant, mais il est là. À noter la mauvaise place de Button quand même en 7e place.
Oui.
Non, rien à dire sur Button.
Non, c'est vraiment étonnant au vu de la performance.
Mais je pense que c'est exactement le même problème. On se rappelle de Button quand avec Brown, quand il y avait des températures froides, on disait bah oui, il a du mal à monter les pneus en température.
Oui, bah oui.
Là, c'est le même problème. Il fait 15 degrés dehors. là où Lewis Hamilton, son pilotage champagne fait que il peut brûler les pneus. Enfin, voilà, les pneus ne brûlent pas parce qu'il fait trop froid. Là, le pilotage de voilà, ça monte moins bien. Il a dit les pneus montaient moins bien en température. Voilà, alors je pense personnellement que c'est en partie dû à ça. Voilà, heureusement c'est pas les conditions qu'on aura toute la saison. Donc.
Non. On a donc tir groupé aussi des Ferrari, hein. Massa en 5, Alonso en 4, et à la 3e place, what a surprise, la première fois qu'il est pas en première ligne.
Oui, depuis.
Qu'est-ce que c'est médiocre quand même, hein. Qu'est-ce que c'est nul. Vous n'êtes que 3e de la qualif. À même pas 7e en plus.
Et il pense à prendre qui pour le week-end prochain, Piquet ou autre? Qu'on a Senna qui a remplacé le Fed. Là, Vettel, c'est pareil.
Je pense que là, oui, là, c'est une vraie déception.
Ah non, là, Piquet, il y a qui libre? Kenberg, à l'ailleurs. Non, faut revoir la stratégie chez Red Bull, hein. C'est anormal.
Et donc en 2e place quand même, alors qu'il avait mal commencé son week-end, Lewis Hamilton. Ça, par contre, réussir
alors,
à se caler
alors
entre
là,
le deux
moi
et
moi, je
tout.
Dis, monsieur. Ouais. Il a fait un, non, mais il a fait.
Il pense avoir fait le tour parfait, alors qu'il n'est pas le tour parfait, à 55 millième, mais pour lui, c'est.
Pour lui, avec une voiture qui n'est pas aussi bonne que la Red Bull, oui, ça, c'est parfait, quoi.
Ah ouais.
Il a été à la perfection, ouais, pour sa voiture. Moi, j'ai malheureusement pas pu voir les essais, mais j'ai été me rendre sur des sites pour voir la vidéo et voir son tour. Ça m'a quand même scotché, quoi. Il a été vraiment à fond avec la voiture, quoi. À fond des possibilités, quoi.
Mais ça me rappelle Alonso à Barcelone, quoi. Voilà, il fait la 3e place ou la 4e place, je sais plus. Et pour lui, c'est une victoire. C'est la pole. À noter que je viens de vérifier, c'est la première fois que Sébastien Vettel n'est pas sur la première ligne d'un Grand Prix depuis Monza 2010, où il était 6e. Et sur les deux dernières saisons, il a été 6 fois maintenant, il n'a été que 6 fois au-delà de la première ligne.
Oh là là.
Oh la pas. Ah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes son départ, il n'est pas habitué à avoir du monde autour de lui, quoi.
Ah non,
Même en simulateur, ils sont tout seuls, donc ça va, ça file, mais là, ouais, ça a dû lui donner un coup de froid de voir les autres tout autour. Ça va.
C'était la 9e pole position pour Marc Webber, la 30e pour Red Bull, la 185e pour Renault, à une moyenne de 205,739 km/h.
Mais c'est pareil, son tour était magnifique à voir.
Ah bah oui. Mmh. Ouais. On va passer à la course et au top 10.
Mmh. Oui.
Mmh. Alors, Dino, déjà, est-ce que tu as la liste devant toi pour nous indiquer?
Oui, je l'ai, Cindy.
Hein? Qui sont dans le classement, enfin, je veux même pas dire ceux qui sont dans le classement, en fait, tous ceux qui sont au-delà de la 10e place.
Alors, tous ceux qui sont au-delà de la 10e place, à commencer par ceux qui n'ont pas reçu le moindre point, ce sont, Jérôme D'Ambrosio, Liu Zi et Karun Shandok. Pauvre Karun Shandok, il n'a même pas été encouragé pour ses débuts. Enfin, son retour.
Son retour, oui.
Donc, en 19e position, ex aequo, nous avons Maldonado, Barrichello et Ricciardo, qui ont chacun eu un point. En 17e place, ex aequo, nous avons le décevant, Nick Heidfeld, 3 points, et Eki Kovalainen, la claque. En 16e position, nous avons Timo Glock avec 7 points. En 14e position, ex aequo, nous avons Perez et Alguersuari, 9 points. En 13e, nous avons Di Resta, 13 points. En 12e position, nous avons Buemi, 27 points. Donc là, les écarts, les nombres de points sont pas vraiment très élevés. Heureusement, la 11e position sauve un peu l'affaire, nous avons Petrov en avec 80 points, à savoir donc que le vainqueur du classement du SAV a totalisé 886 points.
Mmh. Joli score. Alors, noté, Dino, que tu as donné 6 points à Petrov.
Ouais. Je suis le seul. Ah bon, d'accord.
Bah, je sais pas, Steph Core, toi, tu. Non, bah, pas de points à Petrov si. Ou à d'autres, bah, d'autres hors du top 10
Non, moi je suis dans le top. Ah si, attends, ah, tu dis Petrov, il est pas dans le top 10?
Non, bah, il est 11e en fait.
Bah, Petrov, oh. Il a mis 6e.
Oh. Attends, vu la course qu'il fait, il fait ruiner la course par une stratégie d'ingénieur.
Et je vais même te dire, il y a de l'écart avec le 10e.
Oui, il y a 40 points d'écart avec le 10e.
Il y a 40 points d'écart, ce qui m'a surpris. Le 10e, bah... je lui ai donné un point et je pensais pas qu'il serait dans le top 10.
Oui, mais tu sais, il y a des gens qui donnent un point au 10e et... Mais... Je sais pas, Steph Core.
Ah, mais c'est, mais non, ça paraît quelque peu étonnant, parce que je vois pas qui mette à la place. S'il fait une belle course en, la course en elle-même est belle. Sa stratégie, malheureusement, a été plantée, ce qui l'a vraiment redescendu au classement, mais son week-end est plutôt, est correct par
rapport. Et on l'a vu à la défense, je crois, sur Button.
Bah oui.
Ah, j'ai envie de dire, c'est les champions du monde, ils les cumulent, quoi, pour le moment. Il s'est fait Hamilton l'an dernier, Alonso l'an dernier, la Button.
On se rend compte que niveau pilotage, il est bien, aussi bien à l'attaque, sur la défense, il est bon aussi. Pour moi, ouais, c'est voilà, j'ai un vrai coup de cœur pour Petrov à la base, mais non, pour moi, j'ai trouvé sa course vraiment intéressante. Malheureusement, ouais, planté et tout par son écurie. Après, c'est peut-être vrai qu'on l'a pas assez vu peut-être aussi durant le Grand Prix. C'est peut-être ça aussi qui l'a ruiné dans le classement. Mais autrement, non, sa course était pas mal, quoi. Tu vas me dire après, ouais, je pense qu'il doit y avoir des oublis ou des classements.
C'est-à-dire qu'en fait, à la 10e place, avec 120 points. Et moi, je lui ai donné un point, mais je pensais même pas qu'il serait dans le top 10.
J'ai même pas donné le point.
En fait, c'est Button. Mais moi, je lui ai donné juste un point.
Bah, il devrait même pas être dans le classement. La course qu'il fait, elle est... D'accord, soit il arrive pas à monter la température.
Oui, il a achevé un peu. Ouais. Il a achevé, en fait. C'est ça. C'est pour ça, moi, je lui ai donné un point. Je lui ai dit, ouais, bon, les gens vont pas le mettre dans le top 10. Et en fait, il récolte quand même 120 points.
C'est surtout, c'est ce qui est étonnant. Enfin, ça, il a eu quand même quelques moments d'attaque. Et pourtant, voilà, ça, bon, d'abord, moi, il finit pas la course. Donc, automatiquement, même si c'est pas de sa faute, j'ai pas tendance à favoriser les mecs qui finissent pas la course. Puis, c'est vrai qu'il a semblé tout le week-end un petit peu en difficulté.
Pour moi, tout le week-end, il a attendu la pluie, même durant la course. Malheureusement, ça s'est déjoué pour lui, quoi. Mais c'est justement là. Il commet l'erreur durant tout le week-end, donc de là le placer dans le top 10.
Même en course.
Il a fait, même en course. Donc
il fait un relais de 25 tours. Le premier relais, il est en, pas loin de 25 tours. Et à un moment donné, voilà, il attendait juste la pluie. C'est pas une méthode qui fonctionne. Enfin, je l'ai déjà dit, mais moi, j'en ai marre des gens qui arrêtent pas de dire Button sous la pluie.
En même temps qu'il attend de la pluie, enfin, vu le temps qu'il est. Enfin, qu'il essaye cette stratégie, ce coup de poker. Voilà, c'est pas.
Oui, mais à un moment donné, enfin, tu vois quand même, enfin, ou alors ils sont mal informés, ou alors il a pas.
Exactement.
Pif. Mais quand même, à un moment donné, enfin, en course, t'insistes pas autant. Quand tu vois que tout le monde est en train de passer en pneu tendre et que tout le monde a au moins fait un arrêt, toi, tu continues.
Oui, alors on sentait, voilà, qu'il continuait pour, en se disant, pourvu qu'il pleuve, et ben, il n'y a pas eu de goutte.
Il a pour lui les performances de sa voiture, donc il a moins tenté la roulette russe que les autres, que d'autres petites des pilotes de catégorie ou des curies inférieures puissent essayer de tenter ce coup-là, ok. Mais lui, même les informations dans les stands, le Doppler de la météo nationale allemande, il devait fonctionner correctement et donner les informations à peu près correctes. Et là, j'ai trouvé ça vraiment, c'était vraiment une bêtise de sa part. Donc, c'est pour ça
que j'ai pas mis. Là où encore je le comprends, c'est que autant, je crois que c'est en Turquie, vraiment, je lui en voulais d'avoir été sur une stratégie de trop miser sur ses talents d'économe pour sa stratégie. Là autant je comprends, à la mesure où il est pas entre guillemets en bonne position ce week-end pour pouvoir espérer faire quelque chose sans un coup de poker.
Faut dire que depuis sa victoire au Canada, un peu moyen Button, hein.
En
Bretagne, il finit, mais c'est pas de sa faute, mais il aurait pas fini non plus.
Button devient un pilote qui ne sait que profiter des occasions. Voilà. C'est-à-dire que si on était en football, il y aurait les équipes qui font du beau jeu, les équipes qui jouent, et il y aurait les équipes opportunistes qui jouent en contre. Voilà. Button, c'est la lutte à nuit, c'est une équipe opportuniste qui joue en contre.
Ah! Button, c'est la Ligue 1. On a un point au départ, le but c'est de pas perdre.
Tout le monde est quand même Button.
C'est clair.
Allez. À la 9e place, il a marqué 154 points, c'est Camus Kobayashi.
Oui.
Kobayashi, je l'ai mis 9e.
Qui est assez bas quand même.
Ah ouais, parce que moi je l'ai mis 5e.
Moi j'ai mis 6e.
Ouais, moi j'ai vraiment aimé la remontée, l'attaque du Koba, quoi, mais vraiment tel qu'on l'a vu sur les
Paris, parce qu'il part 17, il finit 9, hein.
Voilà, il fait super.
Et surtout, je vais le comparer à un autre. On va parler sans doute de Sutil. Sutil n'a pas encore été cité, donc il va sans doute être devant. Mais moi, ce que je me suis dit, les deux qui me surprennent dans le top 10, c'est Sutil et Kobayashi. Voilà. Sutil, il part 8e, il finit 6e. Kobayashi, il part 17e, il finit 9e. Et ils sont tous les deux sur des stratégies à deux arrêts. Voilà. Donc finalement, Sutil, il est bien placé. Pourquoi? Juste parce qu'il a fait une stratégie à deux arrêts, là où les pilotes Mercedes ont fait une stratégie à trois arrêts. Et donc il a gagné le temps d'un arrêt avec une très bonne voiture et il a réussi à rester dans le tour là où les Mercedes sont restés au-delà du tour. Voilà, il fait une belle course, mais il n'y a pas véritablement une grosse remontée ou quoi que ce soit. BMI,
Kobayashi. En même temps, il y a un peu une question d'habitude, c'est-à-dire que naturellement quand l'exploit devient répété,
on se lasse.
Voilà, on se lasse. Alors que c'est vrai que Sutil, c'est quand même peut-être la meilleure course des Force India depuis le début de la saison, donc forcément on a envie de le booster un peu, quoi.
Ouais, c'est clair.
Camille, c'est vrai que c'est dingue, hein, mais je le dis, hein, ce type est trop grand pour Sauber. Mettez-le dans une top team, merde.
Exactement, là c'est du gâchis. On se rend compte que sur l'attaque ou autre, il a aucune crainte. Et non, il a vraiment un coup de volant qui est absolument génial, quoi. Sutil a une très, c'est pareil, Sutil mériterait une place parce que même là, t'as limite te fait un oxymore en disant Sutil avait une très bonne voiture, c'est Sutil Force India. C'est un petit peu, mais il arrive à exploiter stratégiquement et exploiter sa voiture. Les deux doivent quand même pouvoir remplacer. Se retrouver au volant d'un top team parce que, un, l'intelligence de course et l'autre, un coup de volant, une maestria sur les dépassements, une volonté, une niaque.
Sutil, je suis même pas sûr qu'il ait l'intelligence de course. Enfin, honnêtement, moi, c'est un pilote qui me déçoit de plus en plus. Hein. Honnêtement, Sutil, c'est un pilote que j'aimais beaucoup, mais c'est un pilote qui me déçoit de plus en plus. Alors, défaut de motivation, problème extérieur, je sais pas ce qui lui arrive. Bon, même là, si ce week-end, il s'est réveillé. Sur théoriquement, un circuit d'Iresta, je sais pas si le DTM y roule, mais bon, quand même, en faisant du DTM, il est au moins allé quelques fois sur le Nürburgring.
Il a dû aller, oui.
Donc voilà. Il a vraiment fait un bon week-end. Maintenant, moi, Sutil, je suis vraiment déçu par ce pilote.
Et sur Kobayashi, parce que parlons d'abord de Kobayashi.
Oui,
c'est pas grave. Hein, c'est pas moi.
C'est justement ça. C'est que en contraste, moi, j'ai vraiment voulu promouvoir Kobayashi, qui a un plus, qui est comme tu l'as dit, lui c'est plus des exploits qu'il fait, c'est régulièrement des exploits, ça devient une routine chez lui. Là où Sutil, là il part 8e, il finit 6e avec l'abandon de Button, il y a pas de secret, il a fait une course, je vais même pas dire à la Rosberg parce que Rosberg il y a en plus, Sutil il a assuré sa position sur une stratégie à deux arrêts, voilà.
Ouais, mais moi la chose qui me fait apprécier Sutil, c'est que je me dis ce mec là il roule avec une Force India. Et c'est ça qui fait, quand je vois que derrière tu vas avoir les Mercedes, d'accord, il y a eu trois arrêts, mais tu vois la BMW Sauber, tu vois même Petrov qui est derrière, il y a un potentiel qui est là, quoi. Il arrive quand même à exploiter correctement sa voiture au-delà des limites qui sont, pour ma part, que je me fais dans l'ordre d'idée d'une Force India. Et je pense que sur un thème type, il aurait une possibilité. Même le fait de pouvoir gérer, même là, il a géré ses pneus pour réussir à ne faire que deux arrêts. Il faudrait vraiment qu'il tente. Après, c'est vrai que c'est pas le même caractère d'attaque que Kobayashi, mais c'est pas le même matériel non plus. Même si oui, Kobayashi n'est pas aidé, mais
ouais. Mais il y a clairement un défaut de motivation chez celui, en tout cas cette année. Oui. Alors encore une fois, c'est un pilote un peu comme Timo Glock qui pense qu'il mériterait peut-être légitimement d'aller dans un top team, et parce qu'il y est pas, il se déstabilise un petit peu, il se concentre moins bien, il fait moins bien son travail. Oui, mais sauf que c'est toujours pareil, c'est si tu veux vraiment atteindre un top team, si tu l'atteins pas la première occasion, continue de bosser, continue de maintenir ton niveau pour y aller une deuxième fois. Pour le moment, autant Sutil, moi je le voyais par exemple très bon coéquipier chez McLaren il y a deux ans, autant maintenant je le vois même pas chez Mercedes. Parce qu'il y a tellement mieux aujourd'hui. Par exemple, Kobayashi aujourd'hui, comme tu le disais Shinji, mérite d'aller dans un top team.
Je pense Toyota, enfin. C'était le pilote parfait pour Toyota pour s'il y avait une raison pour laquelle Toyota devait rester, c'était Kobayashi, parce qu'il y avait quelque chose à construire avec Kobayashi qui aurait pu être énorme.
Oui, mais est-ce que ils auraient construit sur une image, sur une nationalité, et maintenant est-ce que ça aurait produit ses fruits?
Sans parler même de la nationalité, hein, mais voilà.
Ça aurait été porteur pour Toyota d'avoir un pilote japonais, en plus, honnêtement, le meilleur pilote japonais qui a eu la Formule 1, de l'avoir dans son équipe, etc., en plus de l'avoir promu, de l'avoir aidé. Maintenant, Toyota, en 10 ans, n'a pas non plus montré qu'ils étaient capables de faire une voiture championne du monde, ou potentiellement, viser la victoire. Ils sont toujours passés à côté pour des problèmes de gestion, etc. Kobayashi, je suis pas sûr que ça aurait été plus constructif. Finalement, c'est peut-être pas plus mal que Toyota soit barré. Kobayashi, bon, là c'est Sauber, mais il a quand même aujourd'hui montré de quoi prétendre à un baquet dans un top team, ça c'est certain.
Allez, on va passer à la 8e place. Il a marqué 181 points, c'est Michael Schumacher.
Ah, moi je l'ai mis 9e.
Dino, tu l'as mis 9e, moi je l'ai mis 8e.
Bah, il a une belle période d'attaque et tout. C'est vrai que il y a une erreur qui est vraiment bizarre sur son tête à queue. On voit vraiment que c'est une erreur de pilotage, mais sur le freinage. Mais voilà, il fait un bon week-end, une bonne phase d'attaque. Mais bon, il finit quand même derrière, comme toujours, son coéquipier. Voilà, on en fait des gros titres, mais bon, un Koba, ouais, mérite nettement mieux par rapport justement à l'attaque, à l'envie qu'un Schumacher. Schumacher nous a fait une démonstration, mais pour moi, il n'y a rien d'exceptionnel.
Ce qui est étonnant, c'est que j'ai trouvé qu'on voyait beaucoup les Mercedes, alors c'est vrai qu'on était au Grand Prix d'Allemagne, alors que finalement, elles font que 7 et 8. Hein. Et
qu'elles finissent un tour.
Oui, voilà.
Mais ouais, moi, je trouve que Schumacher, je l'ai mis devant Rosberg. Je l'ai mis 9e, mais je l'ai mis devant Rosberg. Je tiens à préparer. Il a été propre, c'est-à-dire que ça fait quand même déjà plusieurs grands prix. Il a lui-même dit qu'il prend beaucoup de risques en course, que du coup ça à l'origine d'accidents. Voilà, j'ai rappelé différents accidents où il avait comme par hasard laissé son aileron avant sur la piste. Donc c'est vrai qu'il a pris beaucoup de risques. Là, il a conjugué à la fois le sens de l'attaque. Même sur son coéquipier, et en même temps la propreté, c'est-à-dire il fait une erreur, il part en tête à queue lui, bon voilà, mais il a surtout un splendide sens de l'attaque, avec en même temps une sécurité, voilà, il a trouvé l'équilibre enfin, voilà. Donc c'est juste que je voulais saluer, même s'il a pas fait une course transcendante, et surtout la Mercedes n'était pas transcendante ce week-end.
C'est là qu'on voit la différence entre un Schumacher et un Rosberg, c'est que justement un Rosberg qu'on va trouver plus fade sur la course, et a quand même, lui, on n'a pas l'impression qu'il va à la limite. Schumacher, pour arriver simplement à faire ce qu'il a fait, va, et l'indique lui-même, à la limite de ses possibilités. Et c'est là qu'on se rend compte, justement, des limites de Schumacher. Et qu'un Rosberg a quand même un potentiel un peu plus élevé, peut-être...
Et toi, j'ai dit, tu l'as mis 8e, pourquoi? C'est toi qui l'aimes le casser.
Ah, bon, je l'ai mis que 8e en même temps. Moi, j'ai mis juste derrière Rosberg, mais pareil, hein, j'ai mis Rosberg 7e, hein, faut pas déconner. Non, j'ai plus ou moins suivi le classement, en fait. Donc voilà, on a eu Schumi, Non, là, je t'avouerais, enfin voilà, c'est une 8ème place en même temps que je lui donne. Hein. C'est pas non plus.
Tout ça pour dire ça, Philippe.
Ouais, tu nous dis que c'est par défaut. Enfin, quand tu me dis, ouais, c'est par défaut, je l'ai mis, ouais, voilà.
Ouais, fais simple, tu dis. Facile pas le montage. Tu me foires le montage, là,
merde. Allez, on va passer à la 7ème place. Il a marqué 209 points. Et je me dis, ça va être rapide puisque Dino a déjà tout dit sur lui. Ah c'est Adrien Sutil.
Voilà, j'ai dit ce que j'en pensais. Donc du coup, je ne parlerai pas.
Moi, je l'ai mis 7ème. Bah, j'ai dit aussi ouais, ce que j'en pensais. Donc voilà. Non, par rapport à sa voiture, la remontée qu'il a fait, stratégiquement bien joué. Non, là, il n'y a pas photo. Même
par rapport à sa vraiment, voiture. Par rapport à sa voiture. Bien. Oui, enfin c'est le Force India, mais en face on a Kobayashi, il a que le Sauber, quoi. Kobayashi
par la. C'est le meilleur résultat de Force India hein, cette année.
Ouais, mais sur les, je sais pas, l'équilibre entre ouais Sauber Force India, voilà, pour moi c'est à peu près équilibré quoi. Sur les performances de voiture, c'est à peu près équilibré, donc il finit quand même justement devant Kobayashi quoi. Bah, pour moi, un potentiel égal sur les deux voitures.
Ouais.
Donc moi non, c'est pour ça. Non, je sais pas si utile, j'aime bien quoi. Après c'est pareil, je me fais peut-être avoir à la communication médiatiquement mais avec son histoire et tout. Mais non, même le personnage ou sa façon, qu'il ait une baisse de motivation, je comprends. Voilà, t'es chez Force India, t'as un potentiel, tu rêverais un petit peu de monter plus haut. Il se rend compte que voilà, les baquets sont quand même limités sur les top teams et il y en a d'autres qui passeront avant lui.
Ouais mais quand tu as de hautes ambitions, tu peux pas te permettre non plus de baisser les bras et de faire ton cap précieux. Je comprends qu'il perde de sa motivation. En même temps, est-ce qu'il peut se le permettre? Non.
Mais quel est le potentiel pour lui ou même je dis pour les futurs pilotes d'avoir une place dans les trois saisons à venir dans les top teams? Dis-moi quelle place va se libérer? Massa, ouais. Weber, il y a deux places.
Schumacher.
Bah non, je dis en top team.
Ouais, non, mais quand même. D'accord, c'est pas la top team, mais
Non, mais ouais, non, je comprends bien. Mais voilà, t'as trois places, ils sont combien en ce moment à pouvoir postuler?
Non, mais c'est pour ça que je te dis, c'est que en Formule 1, les choses vont si vite que c'est dommage qu'un mec que moi, personnellement, j'ai envoyé chez McLaren il y a 2 ans, qui le méritait, finalement perde une saison. Voilà, c'est parce que pour moi, il perd une saison. Regarde Glock.
Non, mais on l'a vu.
Glock, il est allé s'enfermer chez comment ça s'appelle
chez Virgin, justement, en 2014. Hein.
Chez Virgin, aujourd'hui, il n'a plus que Virgin au point de prolonger avec Virgin jusqu'en 2014. Mais honnêtement, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais attends, c'est une connerie, ce truc-là. Parce que ce mec-là, il a quand même montré des choses beaucoup plus intéressantes, qui lui permettaient pas d'aller dans un top team, mais d'aller de convoiter, par exemple, Lotus, Grand Prix, hein, pas
ouais, ouais.
Lotus, ou alors Sauber, ou alors Force India, ou alors Williams, pourquoi pas. Et non, il va rester, parce que la roue a tourné, parce qu'aujourd'hui, il y a de nouveaux pilotes qui arrivent, parce que finalement, en ce moment, il n'y a pas beaucoup qui partent, même si on va commencer à penser au départ de Barrichello, de Trulli, de Schumacher, de Weber, pourquoi pas dans quelques années d'Alonso, mais c'est justement là où il ne faut pas manquer de morale, parce que à ce moment-là, il y a des jeunes qui montent, qui te font la concurrence, Hülkenberg, Perez, et qui vont te griller ta place parce qu'ils sont arrivés plus tard, parce qu'ils sont encore dans la fleur de l'âge, et qu'à l'instant T, ils vont être meilleurs que toi. Même si t'as été très bon par le passé, à l'instant T, ils sont meilleurs que toi. Et je trouve dommage que des mecs comme ça se démoralisent, même si je le comprends, qu'ils se démoralisent et qu'ils baissent les bras, et que finalement, bah, ils vont passer à côté de leur propre histoire.
Bah, je te dis, d'une part, ouais, quand je vois la F1 dans la globalité, même les places qui sont à pouvoir, tu vois que chez Red Bull, Ferrari mettent en place les filières, ça risque d'être justement des jeunes pilotes qui n'ont pas été du tout en F1 qui vont prendre peut-être la place de l'un ou de l'autre. T'as tout ça qui vient s'imposer, tu te retrouves enfermé dans une équipe. Ouais, ça j'arrive à comprendre que les mecs puissent être un peu démoralisés.
On voit que c'est quand même ouvert, c'est-à-dire qu'on voit par exemple chez Red Bull, ils ont quand même au départ quand ils ont commencé, est-ce qu'ils avaient un pilote Red Bull? Non, ils avaient Coulthard et Weber. Ils ont essayé les pilotes Red Bull, ils se sont rendu compte que ça marchait pas. Donc ils se sont dit voilà, faut prendre des pilotes d'expérience, des calibres. Je suis pas sûr. Aujourd'hui ils font tout pour qu'un pilote Red Bull soit au niveau d'aller chez Red Bull. Maintenant s'il y a aucun pilote chez Red Bull, voilà, on voit en ce moment ni Buemi ni Aguirre-Suari ne sont proches d'un millième de millimètre du baquet de Red Bull.
Le problème c'est que là ils ont tapé tellement haut, c'est ça aussi. Ils pourront pas avoir 40 Vettel. Hein.
Exactement.
Allez, on va passer à la suite. À la 6ème place. Il a marqué 228 points, c'est Nico Rosberg.
Ah ouais, 6ème quand même.
Bah ouais, quand même.
Moi, je l'ai mis huitième. Voilà, ouais, il tient encore, bah, toujours, surtout le week-end, Dragée Haute à Schumacher, et on le voit pas.
Comme d'habitude, hein, ce que disait Dino, c'est on le voit pas.
Rosberg the Ghost.
Alors que c'est quand, finalement, il est parfait pour une équipe.
Bah, il serait même parfait.
Il est nickel, quand il parle aux journalistes, il répond aux questions, mais en même temps, voilà, c'est jamais trop loin, c'est jamais, même un VT, il est capable de sortir une connerie, hein, voilà. Mm-hmm. Et non, c'est carré. Enfin, voilà, quand Rosberg, il veut faire sauvage, il se laisse pousser la barbe, hein, ça veut dire. Allez. On va passer à la cinquième place.
Oh.
Il a marqué 288 points. Il a fait une course médiocre, nulle.
C'est un naze d'ailleurs.
C'est un naze, hein. C'est Sébastien Vettel.
Sébastien.
Qui pour la première fois, on l'a. Bon, il a fait des deuxièmes places. Ou parfois cette deuxième place, c'est joué à pas grand chose, à un petit détail.
Oui.
Là, pour le coup, on avait, pour la première fois cette saison, voilà, c'était pas, entre guillemets, un bon week-end, pour Vettel. Enfin, on le sentait pas, est-ce qu'il y avait pas aussi un peu de pression, le fait qu'il soit quand même en Allemagne, que beaucoup espéraient quand même, qu'il gagne chez lui?
Bah, moi, personnellement, je l'ai mis dixième. Je l'ai vraiment, bah, j'aurais pas descendu parce que, justement, c'est le Grand Prix d'Allemagne. Il est chez lui. Et en fin de compte, au potentiel, il a rien su tirer.
Dino et moi, on l'a mis tous les deux cinquième.
Et il y a une démotivation, j'ai trouvé, comment dire, après sa qualification et sur le début de course. Après, il y a eu sa lutte avec Massa, voilà,
quand il sort et qu'il va à l'attaque et compagnie, je suis pas sûr qu'il soit démotivé à ce moment-là. Au contraire, début de course, moi j'ai vraiment l'impression que sa course, il a pris des risques au début pour essayer de corriger sa mauvaise qualif et son mauvais départ,
Il a fait sa petite erreur,
et qu'après, il est passé aussi en mode où, voilà, ça y est, je vais pas paniquer. D'ailleurs, tout le monde lui a dit dans la radio, sois intelligent, tu es cinquième, c'est des points, tu perds pas non plus 25 points, tu gardes une confortable avance, sois intelligent, assure le résultat. C'est ce qu'il a dit il y a quelques Grands Prix, je crois que c'est après le Canada, il a dit, moi je vais pas gérer le championnat, je vais pas me mettre à faire des sixième ou septième place, comme Button en 2009. Voilà. Si jamais je suis pas capable de faire mieux que troisième, je ferai troisième. Enfin, pas septième, je ferai troisième. Si je peux jouer la victoire, je jouerai la victoire. Là, ce week-end, vous pouvez pas faire mieux que troisième, il se foire en course, il a pas nécessairement été attaqué, voilà. Alors, moi, je pense que derrière Massa, c'est un circuit où on a vu que c'était quand même très difficile de les passer. Je pense non plus que par rapport à Massa qui avait un peu le mort aux dents, il a pas non plus voulu tenter le diable. Il sait très bien que Massa, n'a plus rien à jouer. C'est ça aussi le danger pour Vettel, c'est qu'aujourd'hui, il est face à des mecs qui n'ont plus rien à perdre.
Ouais.
Là où lui a finalement tout à perdre. Même s'il a une confortable avance, il a tout à perdre. S'il se fout dehors, il perd 25 points d'un coup. voilà, c'est que.
Là, il gère super bien, hein, parce que il ne perd que 3 points d'avance sur le deuxième.
Oui.
Malgré qu'il fait que quatrième, il a 77 points d'avance. C'est une super bonne opération, malgré tout.
Ouais, bizarrement, en regardant la course, j'ai vu, comment dire, je l'ai cru le voir en mode gestion, quoi.
Sans doute. Allez, on va passer à la quatrième place. Et c'est Felipe Massa.
Ah ouais.
Eh oui, Felipe Massa, 444 points. Alors, je l'ai mis quatrième. Et Dino, tu l'as mis troisième. Et Steve Core, combien l'as-tu mis?
Moi, Massa, je l'ai mis troisième aussi.
Troisième. C'est quoi, il y a un flux entre nous, ça?
Ah oui, il y a quelque chose, il y a des ondes. Massa, moi, j'ai...
On parlait de dynamique, voilà, il continue sur sa dynamique, j'ai envie de dire. Et il a failli faire, parce qu'il est bloqué à la cinquième place, hein, cette saison.
Il a failli faire son meilleur résultat.
Ouais, il a failli faire son meilleur résultat.
À un tour près.
Bah, pour moi, Massa, c'est le départ, il fait un super bon départ, c'est ruiné par, par Alonso. Et non, après une belle résistance sur Vettel, une belle bagarre, mais j'ai trouvé présent et bien, bien agressif sur la course. J'ai trouvé bien, quoi.
Ouais, pareil.
Bonne course. Ouais, il a perdu en plus du temps. C'était derrière qui? Rosberg. Il était bloqué durant un temps derrière Rosberg.
C'est la phrase qui court parmi les pilotes en ce moment. C'est surtout si tu te retrouves derrière une Mercedes,
il faut la doubler tout de suite.
Faut pas que tu tardes. Faut pas que tu sortes là du cul.
Bah, c'est là d'ailleurs que, on voit que la zone DRS a été très mal foutue parce que voilà, ça l'a pas du tout aidé.
Il y avait pas non plus d'autres zones vraiment.
Il y avait peut-être la ligne des stands, ça aurait peut-être été un peu mieux.
Oui, je mais sais pas, elle, c'est déjà un endroit qui est plutôt favorable au dépassement, donc.
Ouais, mais bon, entre la foutre à un endroit où il y a déjà des dépassements et un endroit où quasiment ça n'a servi à rien de la mettre là.
Voilà.
Hein.
Bah
ça.
Je sais pas, il devrait laisser limite la décision du DRS à la réunion pilote. Ça devrait être pour moi au pilote de décider.
Non, mais les pilotes, on le met là.
Il
va y avoir zone.
Ouais, dans la logique.
C'est ce que disait Lafitte la semaine dernière dans Dimanche F1.
Moi, c'est ce que je dis depuis le début de saison. Hein, la course, le DRS, ils vont pas s'amuser à l'activer pendant les virages. Hein, ils sont pas fous non plus.
On leur laisse bien en qualification. Pourquoi pas leur laisser en course, quoi.
Course, hein, voilà. Dès que t'es à une seconde, tu peux l'utiliser. Point, voilà.
Moi, depuis le début de saison, c'est un système tout simple. C'est on retire cette merde. On le retire. Il n'y aura pas de savoir si ça marche ou si ça marche pas, de savoir quand le détecter. Virons-le. Voilà. J'en veux plus. J'en ai marre. Alors, c'est vrai que là, on a vu que quand il n'y a pas le DRS et que quand il n'y a pas de stratégie, les courses, voilà, sont pas très
passionnantes.
Bon, voilà.
C'est normal.
Ouais, moi, c'est clair parce que c'est ça. C'est sur le fait que si on peut l'avoir d'activé qu'une fois, qu'on laisse les pilotes prendre la décision. Après, moi, je serais plus comme Shinji. Moi, j'étais pas pour au départ, mais je vois la différence que ça fait sur les tracés, sur l'intérêt de la course. Encore pas dans les top teams, mais pas dans les top positions, mais sur le milieu de course. Mais ça rend quand même le spectacle un peu plus intéressant parfois. Mais ça dénature peut-être un petit peu le résultat dans sa réalité. Mais non, je me rends compte que ouais, il me déplaît pas au final.
Allez, on va passer au podium. Et, oh, surprise, quels peuvent bien être les trois premiers? Parce qu'il y a quand même trois qui se sont distingués dimanche, hein. Donc, en troisième, c'est un pilote Red Bull. Donc, c'est forcément Mark Webber avec 551 points.
Moi, je l'ai mis quatrième. J'ai pas été, ouais, ses essais étaient vraiment bons.
Moi, je
vraiment parfaits. Mais autrement,
moi, j'ai trouvé qu'il s'était bien rattrapé en fait. Encore une fois, il a planté son départ.
Ah, c'était ridicule, quoi, atroce.
J'ai trouvé qu'il s'était bien rattrapé par rapport à ça.
Il plante son départ, il est deuxième quand même au virage, quoi. J'ai pas trouvé saignant, quoi. Autant je l'ai trouvé saignant sur la qualif, autant j'ai trouvé saignant sur tout le week-end. Autant en cours, je l'ai pas trouvé, voilà. Alors, quand j'en vois certains qui vont magnifier Weber, mais qui vont un peu critiquer, Vettel parce qu'il a pas dépassé Massa, ouais. Enfin, Weber, il a pas non plus réussi à dépasser ni Alonso ni Hamilton sur la piste, et il a été obligé de parier sur les pneus en fin de course. Voilà, c'est pas plus glorieux que Vettel, quoi. Donc.
Non, Weber, ouais, même d'essayer à la fin, ouais, de jouer sur ses pneus et tout, c'était, ouais, c'est pareil, c'était pari raté et pas très finaux. Il m'a donné vraiment l'impression de vouloir aussi, comment dire, maintenir un petit peu, ouais, sur la fin de course, la position pour son classement général.
Mais, je suis pas sûr. Quand il tente le pari, c'est vraiment pour gagner.
Sur les pneus?
Ah oui, mais c'est un pari insensé. Honnêtement, dans la configuration de la course, et comme Button un peu plus tôt dans la course, il n'y a aucune raison de s'entêter aussi longuement, sur son train de pneus et d'aller au bout de sa stratégie, quoi. Il change de pneus 5 tours après Hamilton. Dès le tour de sortie d'Hamilton, on sait qu'il est plus rapide. C'est tout de suite qu'il faut rentrer. C'est au tour suivant. C'est ce que va faire Alonso. C'est à ce moment-là. Surtout qu'il était en forme, qu'on pensait que la Red Bull était meilleure avec les pneus médiums, c'est à ce moment-là. Il s'est entêté pour chercher les médiums à la fin et ça n'a pas marché, quoi, simplement.
Oui. Ouais, pas malin, ouais.
En tout cas, ils n'ont rien fait pour gagner la course, Red Bull, ce week-end.
Non,
rien. Ils sont même pas essayé. Ils sont venus à la qualif. Puis après, comme dirait Montezemolo, ils ont envoyé leur frère.
Allez, en deuxième place, et là il y a quand même un bon écart, hein, quand tu disais que tu distinguais bien les deux premiers de Weber, puisque il a marqué 724 points, donc ouais, quand même, un joli écart, c'est Fernando Alonso. Là ça y est, hein, tout le monde se dit, ouais, c'est bon la colle. Ce qu'on a entrevu, j'allais dire, oui, en Grande-Bretagne, oui, ça se confirme. la Ferrari revient. Et même, je dirais même, est revenue.
Oui. Merci. Je rappellerai à tous ceux qui ont critiqué Ferrari parce que vous avez gagné juste à cause du diffuseur. Je leur rappellerai. Voilà. Messieurs, nous vous disons merde.
Ouais, ils n'ont pas gagné.
Ils n'ont pas gagné.
Non, ils n'ont pas gagné, mais quand même, tout le monde avait dit qu'ils avaient en partie.
Mais c'est vrai que, on se pose
au diffuseur, enfin, au diffuseur soufflé, et force est de constater qu'ils ont été encore une fois, qu'ils ont fait jeu égal avec McLaren qui est revenu.
Non, mais sinon la course d'Alonso.
Il aurait pu gagner, voilà, c'est.
Ah ouais, là pour le coup,
ça s'est joué.
Sur les trois, on peut même dire sur les trois, même si Weber, bon, il était peut-être un petit peu en dessous, ça s'est pas joué à grand chose non plus. Hein.
Bah, ça
les
joue trois. Sur la sortie des stands, quoi. Voilà. De froid, Hamilton qui est dans une très grande forme, voilà, il peut pas le retenir, il ouvre un peu la trajectoire, Hamilton passe, bon voilà, c'est.
Quand t'as au début de la course, les trois premiers en 4 secondes, voilà, quoi, c'est. C'est chouette.
Puis ils ont été tout le temps, quoi. Enfin, ils se sont
Ah oui. Suivis, après, il y a Weber a un petit peu perdu de temps, mais ouais, les écarts étaient quand même très faibles.
Ouais, c'était vraiment serré, ouais. Ouais, c'était une belle fin de course. Et même c'était beau. Moi, j'ai vraiment aimé le fait de voir les deux plus grands attaquants de la F1 actuelle, c'est Hamilton et Alonso. C'était beau de les voir premier, deuxième, quoi. Je sais pas, ça m'a vraiment plu, quoi. C'était une belle image de se dire, voilà, pour moi, pour le moment, c'est les deux plus grands attaquants qu'on ait en F1.
Et les fans d'Alonso ont pu avoir quand même des sueurs froides après, avec ce qui s'est passé. Alors, ce qui a donné une très jolie image.
Ah ouais.
Mais quand même, le fait qu'il arrête la voiture sur le bas-côté. Non, c'est bon, il restait le litre d'essence. C'est bien pour ça qu'il...
Mais c'est justement, c'est parce qu'ils étaient vraiment à la limite, pour le litre. Ils allaient le dépasser, donc ils nous ont dit, écoute, arrête-toi, on est au litre, arrête-toi. Voilà. On va la ramener à pied.
Ils ont rien dit même à Weber, alors que Weber aurait pu se prendre une amende. Pour ce qui... Alors, c'est con, quoi. Ça a donné une jolie image, c'était sympa.
D'ailleurs, non, tu crois qu'ils ont parlé de quoi, Elle est pas mal ta voiture, ils sont pas mal les ailerons.
Bon. T'as quoi comme moteur radio, lecteur CD, air clean?
Il me rentre un petit peu dans le cul, mais...
Écoute, Ferrari a fait un moulage des fesses de Alonso, hein, en espérant récupérer peut-être des indices aérodynamiques sur la voiture.
J'imagine que c'est vrai. Non mais j'imagine surtout c'est que je pense.
Pardon, qu'as-tu ressenti quand tu étais sur la voiture?
Mais voilà, je pense qu'honnêtement, je suis sûr qu'il y a un ingénieur qui lui a dit bon alors écoute Fernando, est-ce que par hasard quand t'étais sur la voiture, t'as vu des trucs de comportement parce que il a été finalement assez proche de la position de conduite, il a peut-être vu des. Alors dis-nous, hein, elle fonctionne comment la voiture? Bah écoute, elle est bien quoi, elle est confortable, voilà, j'étais à mon aise, voilà.
Allez, on va passer à la première place. Et bien sûr, il est noir. Parce que, avant, on le savait pas, hein, mais bon.
Non, on le sait.
On le sait. C'est Lewis Hamilton avec 886 points. Voilà. Très belle course, solide.
Bah, magnifique, opportuniste.
Hamilton, comme on aime le voir. Voilà, tout simplement. Ouais.
Exactement. Et autant on pouvait reprocher à Silverstone les erreurs de l'équipe, là autant l'équipe elle est irréprochable quoi. Enfin, ils ont fait du bon boulot, ils ont bien travaillé, ils ont ramené plein de pièces. Enfin, faut toujours se méfier de McLaren le vendredi soir.
C'est une magnifique course. Le petit brin de, il y a eu quand même le petit brin de réussite, c'est sur la sortie où vraiment ça se joue au millième près où il arrive à se placer juste devant Alonso.
C'est même frustrant.
Ouais,
on n'a pas eu de bagarre quoi. C'est voilà. J'ai été frustré, mais
ouais, ouais.
C'est même pas de me dire oh il est passé devant Alonso, je me dis merde ça a été trop facile quoi.
Ce que tu sais c'est quoi au début de l'émission, finalement ils n'ont fait que se suivre, finalement. Oui, ils ne sont jamais vraiment.
Très vite, mais.
Oui.
Parce que même Alonso qui avait justement ouais le train de pneus chaud et rien, il s'est pas porté non plus à une attaque à outrance sur Hamilton. Je pensais qu'il allait le faire au moins sur les deux premiers tours.
J'ai trouvé un peu mou, enfin voilà.
Je me suis dit il assure peut-être un petit peu, il attend vraiment une ouverture ou simplement c'est pareil avec ce qu'on a vu Hamilton faire sur certains grands prix. Il s'est peut-être dit ouais je vais peut-être pas risquer non plus la voiture complètement. Mais non, c'était voilà, Hamilton, il m'a vraiment bluffé, voilà, j'ai l'impression que lorsque on le voit agir mal, c'est qu'il se dit ma voiture n'est pas à fond, donc c'est à moi de devoir surpasser la voiture. Et c'est pour ça qu'il a des comportements qui sont un petit peu négatifs ou voilà, il va créer un incident et tout, que là quand tout flotte, que la voiture lui semble bien et compétitive, il assure juste que sur son pilotage. Et voilà, c'est propre, net. Non, c'est vraiment du beau boulot. Après, ouais, le seul regret que j'aurais, ben voilà, c'est que les dépassements ou autres se soient faits par les stands. Et qu'il nous manque cette petite bagarre sur les premières places.
Mais moi, clairement, il est premier pour son tour de qualif. Voilà.
Et pour te plaire, Dino, c'est que au final, McLaren, ils ont fait une course d'équipe parce qu'il doit sa victoire aussi, à son team, à ses mécanos qu'ont fait les bons arrêts.
Ils font un arrêt en 3 secondes 2.
Voilà, c'est magnifique, quoi.
Je crois que c'est le record depuis l'année dernière, quoi. Je crois que le record, c'est 3 secondes 3, 3 secondes 4 l'an dernier. La 3 secondes 2, c'est monstrueux ce qu'ils ont fait.
Et c'est cet arrêt-là qui lui fait gagner la course.
Oui. On va passer au classement. Et on arrive enfin à la mi-saison. 10e course sur 19.
Oui, à dépasser même.
Oui, bah oui, dépassé. Donc, cette fois-ci, je vais donner tout le classement, parce que c'est la mi-saison, voir un peu où ça en est, quels sont les écarts.
Si, genre, l'émission est pas suffisamment longue.
Mais ça va être rapide.
Si, dis, j'ai de la monnaie pour la machine à café demain.
Vettel est premier avec 185 points seulement au classement du SAV. Devant Hamilton, 139, Alonso, 138, Weber, 130, Button, 119, Massa, 62. Rosberg 47, Schumacher 41, Kobayashi 40, Hedfeld 31, Petrov 30, Perez 14, Sutil 12, Maldonado 8, Execo avec Alguersuari, Di Resta 3, Buemi 2, et Barrichello il est dernier avec 1 point. Chez les constructeurs, Red Bull 315, McLaren 258, Ferrari 200, Mercedes 88, à la marche haute, Lotus Renault 61, Sauber 54, Toro Rosso 10, non, même pas, Force India 15 devant Toro Rosso 10 et Williams 9 dans l'autre classement. Là, je vais donner que les trois premiers. Mais en même temps, hein, Sébastien Vettel 216 points devant Mark Webber 139. Il n'a perdu que 3 points d'avance. Vous voyez, ce que les autres finalement se partagent les points.
Oui, bah ouais. Hein. Encore une fois, enfin, c'est quand on regarde sur les 4 dernières courses, il y a 15 vainqueurs différents. Voilà, donc à partir de là, Vettel, et dont Vettel. À oui. partir de là, Vettel, il est plutôt à l'abri.
Il sera en tête forcément au moins jusqu'au Grand Prix de Singapour. Ouf. Donc là, on parle de fin septembre.
Oui.
En perdant que 3 points par course, comme là.
Voilà, oui, non, honnêtement, pour moi, ça change rien.
C'est clair.
Donc Weber 139 et Hamilton 134. À noter que Alonso est à 130 points et que Button lui décroche. Hein, c'est comme le deuxième Grand Prix sans marquer de points. Il est à 109. Chez les constructeurs, Red Bull Renault 355, McLaren 243 et Ferrari 192. Qui marque plus de points que McLaren, plus de points que Red Bull cette semaine. Ferrari. On passe au fait marquant.
Oui. Oh non.
Quel était selon vous le fait marquant du Grand Prix de Grande-Bretagne?
Dino, tu réfléchis cette semaine.
Avec 5 votes, 15,63%, le problème de Vettel au stand. Avec 10 votes, est arrivé deuxième, la mauvaise organisation de la FIA tout le week-end. 31,25%. Et donc, premier, la première victoire de Ferrari cette saison. 17 votes, 53,13%. Vous avez été 32 à voter, on vous remercie. D'ailleurs, on remercie aussi, comme d'habitude, ceux qui ont voté pour le top 10.
Oui.
Bah donc, c'est toi qui te retrouves avec le premier choix.
Ah, merde. Faut que je réfléchisse encore plus. Merde. Le premier podium sans Vettel. La mauvaise course de Vettel. Voilà, on va mettre la mauvaise course de Vettel. Ensuite, c'est à toi, Steph Corr.
J'en ai une, mais bon, j'ai fini la dernière, mais j'aimais bien la formulation, c'est 3,2 secondes qui donne pour la victoire à Hamilton.
Démerde-toi, c'est dit.
Bon, je sais que toi, ça va être nul. J'ai envie de dire l'hiver en plein été.
Waouh, c'est beau, hein, c'est limite littéraire.
Mais ne m'offrez pas la victoire comme ça. Pour Steph Corr qui met un truc que les gens vont mettre 3 heures à comprendre. Et toi qui nous mets un truc qui clairement que tout le monde va croire que c'est moi qui l'ai mis.
Moi je veux dire l'hiver en plein été ce week-end en F1. Juste l'hiver en plein été, ils vont pas comprendre les gens.
Peut-être déjà faire l'effet marquant de la semaine prochaine alors.
Quel est selon vous le fait marquant du Grand Prix d'Allemagne 2011? Vous avez choisi entre la mauvaise course de Vettel, 3,2 secondes qui donne la victoire à Hamilton, et l'hiver en plein été ce week-end en F1.
J'en veux même pas de cette victoire. Ne votez pas pour moi, je n'en veux pas.
C'est vrai qu'à réentendre là,
C'est laid, hein.
C'est clair.
Ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a qu'une semaine pour voter.
C'est vrai.
Je vais trop dominer.
Pire, c'est une petite victoire ou une triche d'un coup. C'est...
Oui, voilà.
Voilà.
Je vais faire appel à la famille, moi.
On va passer au drive-thru.
Ah oui.
Et oui, parce qu'on a pas. C'était... Alors, je sais déjà. Hein, que... mais émission spéciale, hein, donc on se permet des trucs. Dino ne va pas donner son Dreyfus. Ce n'est pas qu'il va pas le donner dans l'émission, c'est juste qu'il va pas le donner maintenant.
Voilà, c'est que je ne peux le donner qu'à un moment précis de l'émission et c'est là tout de suite.
Donc Stefka, est-ce que tu as un Dreyfus?
Bah moi j'ai comment dire, ouais, j'ai rien de particulier. Bah le Dreyfus, c'est la polémique, elle a pas duré longtemps, mais c'était quand même sur Buemi et Elfeld, quoi, où il y a une hésitation, j'ai trouvé comment dire, encore sur les commentaires ou sur les sites ou les commentaires français, ça allait encore, parce que tu vas me dire peut-être que c'était Renault qui était, mais j'ai trouvé que ouais, sur certains sites anglais ou autres, où on donnait quand même une part de défaut à Elfeld, que je trouve, pour moi, qu'a parfaitement géré son dépassement, et on voit bien sur l'image que Buemi voit son absence sur les deux rétros, donc à ce moment-là c'est bien qu'il est à côté de lui, quoi. Et j'ai trouvé que certains médias plus anglophones, quoi, essayaient de décharger un petit peu la faute de Buemi, mais c'est vraiment un Dreyfus pourri, quoi. Mais c'est
t'inquiète pas c'est la seule chose que j'ai trouvé
à reprocher durant le week-end, parce qu'autrement c'était quoi la décision de Renault pour les arrêts de Petrov, mais bon.
Et toi, Shinji ?
Le mien, c'est un Dreyfus, alors qui va concerner le GP2, hein. Ou plutôt, l'extension d'un problème qui s'étend au GP2.
Il n'y a pas plus pourri, alors.
Ah oui, je vous le dis, hein. Donc, si je devais donner un responsable, ça serait, je dirais, Tony Fernandez, hein.
Ah oui.
Hein. Voilà. Puisque, alors, vous rappelez que Team Lotus a une junior team, hein, en GP2, qui s'appelle de son joli nom Caterham Eurasia. Donc, qui était, depuis le début de l'année, en livrée rouge et blanche, hein, aux couleurs de Eurasia. Et, depuis que Monsieur Fernandez a racheté Caterham, ils se sont dit, tiens, on va repeindre les voitures. Et comment qu'ils les ont repeintes? Je vous le donne en mille. Ils les ont repeintes en vert et jaune. Vous allez me dire, logique. Oui. Sauf que, faut savoir qu'en GP2, et c'est pour ça que j'en veux à Tony Fernandez, parce que c'était déjà pas assez le bordel en F1, hein. Faut qu'en plus, maintenant, il amène le bordel en GP2, hein.
Oui, mais c'est pas trop lui qui est fautif.
Ouais.
Parce que, Lotus Art, qui est associé avec Lotus.
Oui, donc je vais continuer. C'est donc Caterham Eurasia devient vert et jaune. Sauf qu'il y a déjà une écurie vert et jaune, qui est l'équipe Lotus Art, ou Lotus ART, qui d'ailleurs, au passage, était rouge et blanche, hein, jusqu'à l'an dernier, et donc qui est passé au vert et jaune, parce qu'ils sont soutenus par le constructeur Lotus. Et à noter d'ailleurs, pourquoi ils sont pas en noir et or, puisqu'après tout, Lotus Renault est en noir et or. C'est parce que sinon, ça aurait été confondu avec Dams, qui lui est la junior team de Renault, qui lui a les couleurs de Renault. Vous avez suivi? Non? C'est normal. Donc voilà, c'était tout.
Pour le moment.
Donc sur ce, on va passer au concours.
Oui, le concours top à position et la question qui vous était précisée, qui vous était posée par Gus Gus. Mm. Je dis Gus Gus parce qu'il a précisé que ça se disait bien Gus Gus. Parce que
voilà, merci. Voilà.
Était la suivante. Citer deux particularités du circuit d'Avus qui a accueilli le Grand Prix d'Allemagne 1959.
Donc, rappelons Avus qui signifie Automobile Verkehrs- und Übungsstraße.
Voilà, oh, magnifique accent. Alors, Steph Kopamp, est-ce que toi tu serais capable de me citer deux particularités du circuit de l'Avus?
Non. Sincèrement, non.
Il y a une réponse.
Il y en a eu trois.
Je te propose que pour chacune des trois réponses, tu nous donnes les caractéristiques qu'ils ont données, on va valider ou pas les réponses.
D'accord.
Pour découvrir ce que les gens ont trouvé sur l'Avus.
Ça tombe bien, Shinji, j'avais prévu. Tu ne me prends pas au dépourvu. T'as vu comment je gagne du temps? Alors, nous avons un premier participant qui nous dit « Quelques-unes des particularités du circuit Avus sont sa forme inhabituelle pour un circuit, mais il reprend aussi deux voies parallèles d'une autoroute. »
Donc oui, on peut dire qu'il est inhabituel, puisque en gros, il ressemble à une épingle.
Oui.
Enfin, quand je dis une épingle, c'est pas une épingle à cheveux, hein, non, c'est genre une épingle à nourrice. C'est-à-dire que c'est une espèce d'ovale de NASCAR, mais qui aurait fait un énorme régime.
Deuxième proposition, il disposait d'un banking de 43 degrés. Et c'est le Grand Prix de F1 le plus rapide des années 50 avec 230 km/h de moyenne pour le vainqueur Tony Brooks.
Très bien. On peut noter que donc ce banking de 43 degrés, il n'y avait pas de barrière en haut du banking. Donc quand tu sortais de route, tu te tuais directement.
Sévère quand même.
Et on a une troisième proposition. La VUS est la première autoroute construite au monde et pour reprendre StatF1, son tracé reprend les deux voies parallèles d'une autoroute reliée par une boucle d'un côté et de l'autre.
Voilà, exactement. Mais...
bonne réponse. Alors dans le lot, hein, on pouvait aussi rajouter que Ferrari a réalisé un triplé reléguant la concurrence à un tour, que c'est le seul circuit qui s'écrit intégralement en majuscule.
Oui, c'est vrai, c'est pas faux.
Que c'est sans doute le seul circuit qui contient les lettres A, V et S, que c'est le seul circuit qui rime avec anus. Donc voilà, donc tu valides les trois réponses, Cindy.
Ah oui, oui, oui.
Donc je peux te proposer les questions.
Les questions.
Donc nous avons reçu les questions suivantes. Premièrement. Comment s'appelle le parc aquatique situé à côté du circuit?
De lequel? De Nürburgring? Bah,
du Hungaroring.
Hungaroring, d'accord.
Oui. Ça concerne la Hongrie.
Oui.
Deuxième question. Quelle est l'initiative que Renault, en partenariat avec Total, a mis en place l'année dernière sur le circuit du Hungaroring? Et troisièmement, dresser la carte d'identité du seul pilote hongrois ayant couru en Formule 1, nom, prénom, équipe et point marqué.
Moi, j'ai bien envie de demander le parc aquatique. Pour une fois, de demander un truc qui n'a pas de rapport avec la F1.
Et donc, bravo à Steve qui nous pose cette question. Comment s'appelle le parc aquatique situé à côté du circuit? Voilà, il avait répondu, hein, la réponse qu'il avait donnée, c'était le banking de 43 degrés et le fait que c'était la course la plus rapide des années 50. On peut également remercier Maël qui nous a posé, selon moi, une bonne question hein, sur l'initiative menée par Renault l'an dernier sur le circuit du Hungaroring et Total. C'était le fait en fait de faire de permettre à des aveugles de vivre une expérience de Formule 1 dans une biplace. Et la question de Zilex qui demandait de dresser un portrait de Zoe Baumgartner, hein, on peut le dire.
Il me semble que justement,
il me semble qu'on en avait déjà parlé l'an dernier. Donc, voilà. Donc félicitations, Steve. Je vous rappelle la question de Steve, hein. C'est comment s'appelle le parc aquatique situé à côté du circuit? Donc, vous avez jusqu'à lundi prochain pour répondre, hein, 18h maximum. Pour ça, c'est soit sur FanF1, rubrique plus contact, ou directement sur notre adresse mail savf1@yahoo.fr. N'oubliez pas donc de nous poser une question sur le prochain Grand Prix, enfin sur le Grand Prix dans deux Grands Prix, donc ça sera le Grand Prix de Belgique. Voilà. Où nous recevrons, théoriquement, nous recevrons Ben, hein, le chroniqueur de la chronique Pit Stop, puisqu'il est belge. Une fouille. Et ensuite, donc, bien évidemment, vous nous donnez la réponse à la question de Steve. Vous nous communiquez une question sur le Grand Prix de Belgique avec la réponse si possible. Voilà. Essayez d'être sympa quand même. Ne faites pas non plus des trucs qui prennent 3 heures à expliquer.
Oui.
Parce que je sens que vous êtes tous.
Les gens peuvent mettre 3 semaines pour trouver la réponse, mais il faut que la question en elle-même soit quand même assez simple.
Voilà.
Genre, citer tous les pilotes belges qui roulaient en F1, tu vois, des choses comme ça.
Non, pas celle-là. Ça va être très long.
Non, c'est très long.
Ça sera très long pour le Grand Prix de Belgique.
Oui.
Donc voilà, c'est tout pour le concours.
Très bien. Et on va se projeter au week-end prochain. Allez, dès ce week-end. Mal. Oui.
Mm-hmm. Bon, je pense que non, maintenant, on peut arrêter de faire des pronostics débiles.
Oui, maintenant, il y a un petit peu plus de... Ouais. déjà, quand on parle du prochain Grand Prix...
Ah oui, c'est vrai.
C'est le moment du guest.
Ton heure de gloire, Steph Corr.
Ah oui, et justement, là je vais donner les je vais donner les 7 bonnes raisons de ne pas regarder le Grand Prix.
Ah salaud, tu veux me faire mal.
Bah déjà la première et la plus simple, c'est la Hongrie, rien de plus à dire.
Voilà, c'est une bonne raison.
Ça c'est toi qui me dis, Cindy.
Vous aimez les dépassements, les luttes, le suspense, rien de plus à dire.
Je suis pas d'accord, je ne la valide pas. Moi, il y en a aucune de bonne.
Dans le week-end, vous avez un risque de voir Bruno Seda au volant d'une F1. Rien de plus à dire. En 4.
C'est méchant, mais c'est... Oui.
Ouais, je me fais plaisir.
Shinji, je ne valide pas n'importe quoi. Faut qu'on soit ferme maintenant. Ça y est, maintenant, on a vu des bons trucs. Là, quand c'est de la merde, faut le dire.
Ah ben, en plus, ouais. Après, même derrière, je vais être encore méchant une fois plus. Mais là, en 4, le topless est autorisé en France et le dimanche, c'est jour d'affluence sur la plage. Rien de plus à dire.
En Formule 1, vu le temps qu'il fait en ce moment en France.
Alors qu'en Hongrie, il fera beau. Et là, il y a du topless, donc on peut aller en Hongrie. Voilà. Donc pareil, ça, là, elle est pas bonne. Allez hop, 0 sur 4.
Et vous vous dites fan de F1, vous connaissez pas Baumgartner, vous méritez pas de regarder la F1. Rien de plus à dire.
J'ai bien fait de pas choisir cette question.
Ouais, j'ai balisé un peu. Rien, ça va. Bah, l'avant-dernière, Vettel, 216 points. Rien de plus à dire. tout est joué.
Là, ça va. Ça, je l'accepte. Elle concerne pas le circuit, ça va.
Et la dernière, pour le Grand Prix d'Hongrie, Brognard, Lafitte, Moncé, Malbranque. Rien de plus à dire.
Ça va, pareil, je l'accepte.
Là.
Pour moi, je l'ai dit, ça fait 2 sur 7.
Allez, sinon, pour les pronos de ce Grand Prix de Hongrie.
Alonso.
Pareil, sincèrement pareil.
Alors, je voulais dire Massa, pour le symbole, mais je me suis dit, attends, Massa, il va recevoir un message au 47e tour. Non, ça sera Alonso.
Ouais, pareil, je vois bien Alonso. Par contre, faut pas croire, je pense que, soit les retours des vacances, les Red Bull, voilà. Mais ouais. Là pour la Hongrie, ouais, Alonso.
Moi je pense aussi qu'en Allemagne on a aussi payé un peu le retour en arrière. Il y a des pistes qu'ils ont commencé à ouvrir où ils se sont un peu mélangés, donc il fallait refaire un peu le tri dans tout ce qu'il y avait. Et donc voilà, je pense que Red Bull, il y a Weber qui dit Red Bull ne domine pas autant que l'année dernière. Je pense qu'il domine autant. Voilà, c'est ça remonte fort derrière, par contre. Pour moi, ça remonte très fort.
Oui, par contre. Ouais. Allez, on arrive à la fin de cette émission. Steph Corr, merci.
Avec tout plaisir pour moi, c'était vraiment très très, bah comme d'habitude très sympa et tout. Non, en plus, non, l'émission parfaite, non, c'est vraiment sympa d'être là.
Parfait, attends le montage.
Non, c'est vraiment sympa et c'est vraiment un bon moment que je passe à chaque fois et merci à vous de me permettre d'être avec vous.
On vous remercie hein, de nous écouter. Hein.
Certains d'entre vous depuis 50 émissions.
Depuis 50 émissions, oui, merci beaucoup.
Je vous ai trouvé à la deuxième.
D'ailleurs, je me dis, Shinji, c'est bien d'en dire merci, mais il faut qu'on trouve un moyen d'aller vraiment les remercier.
Oui, un truc original, un truc comme seuls nous savons faire.
Oui, il faudrait trouver un truc, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait leur offrir?
Tu sais, on a toujours eu comme idée de d'étendre nos passions, tu vois, de ne pas faire de la F1 quelque chose de fermé. Ce qui est intéressant dans la passion, c'est de trouver des perches, hein, comme je fais avec l'éphéméride ou
oui, voilà.
Chiffres inutiles, d'avoir des regards différents, d'avoir une espèce de passage vers d'autres passions. Mais quel genre de passion on pourrait faire partager? Et en même temps, qu'ils soient pas trop loin de la F1, parce que bon, c'est quand même le SAV de la F1, hein. C'est pas le SAV de, je sais pas, du boudin blanc, par exemple. On pourrait faire des recettes de cuisine, non?
Non, c'est pas terrible.
C'est pas très audio. C'est très visuel, c'est pas très audio.
C'est vrai qu'on aime assez le cinéma. On va souvent au cinéma.
C'est vrai.
On a un moyen de mixer les deux. Tu vois, par exemple, on pourrait prendre un film.
Ouais.
Et puis,
le tourner.
Et puis.
Ah non, on n'a pas les moyens.
Non, on n'a pas les moyens. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en plus sur un film? Je vois pas.
Bah écoute, un film, c'est aussi un DVD. On pourrait faire des DVD.
Oh non, ça t'imagines, les DVD, faut les vendre et tout. Non, c'est trop compliqué.
Mais c'est pratique.
Oui. On pourrait refaire un thriller, tu sais, comme dans le film là où ils refont des bandes annonces, où ils refont les films, nous on referait les films. Non, c'est pas terrible.
Non.
Ça coûte trop cher, on en chie déjà trop, donc faut qu'on change d'idée. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On
pourrait rajouter quelque chose. Non, mais non, c'est pareil.
Notre nom au générique? Oh, ça sera trop bien.
Ah oui, mais bon.
Ça dépend du générique.
Oui, ça dépend du générique. Non, on pourrait faire des bonus. Enfin, comme des faux bonus pour les films.
Ouais, comme les commentaires là. C'est les trucs qu'on écoute jamais.
Ah ouais, non, moi je les écoute.
Ah, tu les écoutes?
Ah ouais.
Ah ouais, non, oui. Bah, des fois c'est bien. Mais bon, il faut vraiment tomber sur...
Tu sais que j'ai vu 4 fois le Seigneur des Anneaux. En plus, moi je les avais achetés en version longue. Pour voir, et je me suis tapé la version normale et la version avec les commentaires.
Ah oui, moi je n'écoute, maintenant je ne regarde les films qu'avec les commentaires.
Bien sûr.
Jamais je regarde un film sans les commentaires. Un film sans commentaires, ça n'est pas un film. Et même des fois, parfois, le commentaire sauve le film. Tu vois, c'est ça qui serait bien, ça serait qu'il faudrait qu'on prenne un film qui a besoin d'être sauvé en mettant nos super commentaires dessus.
Ah ouais, donc on pourrait faire ça sur Grand Prix, par exemple.
Grand Prix, il n'a pas besoin d'être sauvé.
Bah non, c'est vrai.
Tout de suite, Grand Prix, Le Mans, ça n'a pas besoin d'être... On pourrait trouver un film pourri sur le sport auto, on pourrait rajouter nos commentaires dessus.
Ah non, Michel Vaillant, c'est pas possible, parce que, bon, c'est aussi cher que de la F1, les 24 heures du Mans.
Non, puis là, faut vraiment trouver un film qu'on peut sauver.
Voilà. Un film stéroïdé, hein, j'ai envie de dire.
Oui, c'est ça, faudrait qu'on fasse un... Voilà, je viens de retrouver le titre, c'est Driven.
Le film qui aime les verbes irréguliers anglais.
Voilà.
Hein, drive the Driven.
C'est ça qu'il faudrait faire. Faudrait qu'on prenne Driven et qu'on fasse des commentaires.
Sur Driven.
Oui.
Et les gens comme ça, ils achèteraient... Non, ils l'achèteraient pas.
Oui, enfin, oui.
Ou ils l'achètent, mais pas trop cher.
Ils se procureraient.
Ils se procurent le film. Hein, ils couperaient le son. Et par-dessus, ils écouteraient nos commentaires.
Ouais.
Ça serait fun.
Mais tu sais, ça me rappelle un truc qu'on a fait il y a 10 jours.
Ah bon?
Tu te rappelles quand t'es venu...
On n'a pas fait du boudin blanc il y a 10 jours?
Non, mais tu sais, quand t'es venu à la maison, qu'on a mis, on a mis Driven et qu'on avait mis les casques, les micros et tout, qu'on avait parlé sur Driven.
Ah oui, je m'en rappelle.
On cherchait ce qu'on allait en faire, ben on a trouvé.
Hein? Ah. Mais tu crois que ça les intéressait?
Bah, je sais pas. Steph, quoi, ça t'intéresserait, toi? D'avoir les commentaires
ah,
du SAV
oui,
sur
oui,
un film.
Oui, ah ouais, 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 ah ouais, ouais, là, 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 ça déchirait, ouais, ouais, un peu que j'en veux. J'en prends une caisse, hein, si vous sortez sans DVD, je donne ça à toute la famille et tout.
Alors,
ah ouais, non, non.
On va faire un truc simple, on va pas vous vendre des DVD, on va vous mettre notre commentaire sur le site du SAV Life 1, savf1.fr, d'accord? Si vous avez le film, vous mettez le film, vous le lancez, dès que vous lancez notre commentaire, vous avez
voilà,
notre commentaire.
Voilà, ça lance au même moment.
Sinon, vous débrouillez pour avoir le film, d'une manière ou d'une autre. De toute façon, on vous explique comment l'avoir dans le commentaire.
Oui. Mais ça se vend, Driven? On peut l'acheter?
C'est possible, mais oui, faut pas l'acheter trop cher.
Voilà. Voilà. Je pense que vous ne devriez pas avoir de mal à le trouver pas trop cher.
Voire même si vous le trouvez à moins de 1 centime d'euro, j'ai envie de dire, pour ce film-là, on vous excusera.
Mais je pense même que dans l'article, on essaiera de s'arranger pour vous donner des liens où vous pouvez l'acheter, genre Amazon et compagnie. On le mettra dans la boutique du SAV. On le mettra dans la boutique du SAV. Voilà, mais bon, voilà, vous aurez le commentaire du SAV de la F1 sur Driven.
Driven.
Un commentaire test. Voilà.
Ah, mais pour, ça, ouais, je veux quoi. Parce que j'ai même pas pu regarder plus d'un quart d'heure du film.
Ah, bah là, on va vous faire regarder tout le film et même plus.
Oui,
oui.
Mais donc voilà, c'est pour vous remercier tous de votre fidélité de 50 émissions. C'est bientôt les 3 ans du SAV, mais enfin, vous voulez quand même marquer le cap des 50. C'est une idée de Shinji, donc bravo à Shinji, ça a été une très bonne idée, très plaisant à faire et
bien marré, ouais.
Et voilà, très très fun. Voilà, donc vous pouvez même l'écouter, si vous n'avez pas le film. Hein, y aura des blancs, ça sera peut-être même aussi drôle, qui sait. Voilà, et si vraiment l'expérience vous plaît, on essaiera de renouveler l'expérience, pas tous les 15 jours, mais
de
prendre des références. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je n'ai pas fait mon drive-thru.
C'est vrai. Alors que tu devais faire ton drive-thru sur ça.
Oui. Et que je vais faire mon drive-thru.
Alors, fais ton drive-thru.
Alors, je vais mettre un drive-thru à Pixar. Parce que vous voulez pas sans savoir, sans doute, que va sortir mercredi Cars 2. Voilà. Et que Cars 2, j'ai eu l'occasion de le voir avec mon neveu dimanche matin, dans une séance avant-première, et que je vous ai dit au début d'émission que j'avais eu mal au crâne et que j'étais pas vraiment en forme pendant le Grand Prix. C'est en partie à cause de Cars 2.
Ah.
D'abord parce que la 3D est pas bonne. En clair, la 3D est pas bonne. Voilà, j'ai eu très mal au crâne. Alors déjà, la 3D me fait un peu mal au crâne, mais là, elle m'a vraiment zingué le crâne. Et surtout, le film, j'ai trouvé le film très décevant dans la mesure où, on est bien d'accord, quand on vous dit Cars 2, vous attendez à ce que ça parle de...
Voiture.
De voiture.
De course.
Voilà.
Voilà, de course, NASCAR.
En tout cas, au moins de voiture. Et quand on vous annonce un Cars 2 qui va réunir Flash McQueen et tous les meilleurs bolides du monde dans une course autour du monde, vous vous attendez, vous dites « Ah, un putain de super bon film !» Cars 1, il est bien, il est drôle et tout, mais ça manquait un petit peu de scène de bagnole. Là, on se dit « Waouh, on va avoir des vrais scènes
autour
de bagnole,
du monde et tout, ouais.
Des vraies courses !» Qui, d'ailleurs, dans le film, sont super réussies. Sauf que vous avez 3 courses, et que à chaque fois que commence une course, vous allez... avec le meilleur ami de Flash McQueen, qui est sur la piste, hein. Son ami Martin, la dépanneuse, vous allez avec lui vivre des aventures d'espions. Tout le film est vampirisé par une histoire d'espionnage avec des écolos, etc., la jeune Bond. Et vraiment, c'est décevant. Alors, ça va marcher auprès des gosses.
C'est exactement toutes les critiques qu'on peut lire, en fait, sur le film. C'est que techniquement, il n'y a aucun souci. Mais apparemment, le scénario, c'est catastrophique.
Ah, c'est-à-dire qu'ils sont partis dans des délires d'espions de faire un film d'espions, alors qu'ils avaient sous la main Raoul Sarrou, ils avaient Francesco Bernoulli. Ils avaient vraiment du potentiel pour faire un vrai film de bagnole en animation. Avec, honnêtement, les scènes de course sont très sympas, mais elles sont quasiment inexistantes dans le film. Alors voilà, vous avez un film de bagnole, vous allez voir un film de bagnole. Cars 1 avait été très triste en scène de course. La scène de course finale avait été très pauvre, avec juste 3 voitures sur le circuit. Pour décider du titre quand même, il y avait 3 bagnoles. Là, il y a vraiment des bagnoles, il y a vraiment des crashs et tout. Mais voilà, c'est frustrant de voir un film de bagnoles, de se dire voilà, on a des fans de bagnoles, c'est fait par un fan de bagnoles en plus. Et ils te font un film d'espionnage, quoi. À partir de là, c'est super chiant, quoi. Donc, voilà, n'allez pas le voir, parce que déjà la 3D n'est pas bonne. Le scénario, si vous avez vu James Bond, la plupart des James Bond, voilà, le scénario, vous allez rien apprendre. Et en plus, ils ont même perdu, je trouve que le film est moins drôle que le premier Cars. Voilà, que ils ont perdu un peu le fond, où il y avait vraiment un fond dans Cars sur le personnage, etc. Qui avait aussi des références avec la F1 ou le sport auto en général. Là, non, c'est des trucs très Disney finalement. Pas étonnant, Pixar a été racheté par Disney. C'est l'un des premiers films. Enfin, c'est théoriquement le dernier film de Pixar en tant qu'indépendant, mais l'un des premiers films sous l'ère Disney. Et en plus, ils ont même perdu ce qui était intéressant dans Cars, c'est qu'il y avait plein de petits trucs. Moi, je l'ai regardé la semaine dernière quand il est passé à la télé, et il y a plein de petits trucs qui m'ont fait mourir de rire dans les détails. Je me suis dit, ah, ça, c'est le détail, il est génial, ça, c'est génial, c'est génial. Et en fait, ce souci du détail, vous voyez beaucoup moins. C'est beaucoup moins soigné, voilà. Alors, il y a des très jolis décors, il y a des très jolis trucs, mais voilà, ça semble trop poussé. Les références à la voiture, ils essaient de mettre des voitures partout, des yeux sur chaque objet. Alors, vous avez l'avion, vous avez une voiture volante, vous avez tout, et tout a des yeux, tout parle, tout est vivant. Voilà. Bon, c'est un petit peu chiant, voilà. Donc, honnêtement, ne vous précipitez pas pour voir le film. On vous en fera un commentaire dans quelques années.
Allez, sur ce, on va se quitter.
Oui.
N'oubliez pas, Life 1 sur Internet, c'est sur FanF1. Et comme d'habitude, on se quitte sur quelques mots de poésie.
Et donc, c'est un programme qui se prête plutôt bien à Lewis Hamilton et qui dit la chose suivante. La vie est comme l'eau dans une pirogue, elle va d'un côté à l'autre.